Bonsoir, du coup je suis Véronique Gillet, je suis donc à la Fondation Abbé Pierre Rhône-Alpes. Donc effectivement, ce soir on démarre un cycle de 3 sessions qui sont proposées par la Fondation Abbé Pierre en lien avec les questions de logement et d'habitat et en lien avec la thématique de l'Université Populaire de cette année qui a été retenue autour du corps. Merci d'être venu à cette première conférence. Alors, comme on est poli à la Fondation Abbé Pierre, on va démarrer par les remerciements. Donc, on va remercier l'Université Populaire de Lyon de nous avoir donné l'occasion de programmer ces 3 sessions, ces 3 soirées sur cette thématique du logement. On remercie également le TNP de nous accueillir confortablement. Alors, je vais faire une petite remarque préliminaire, et c'est là que je suis mal polie, parce que je ne vais pas tout de suite présenter les intervenants. Peut-être rappeler que vient faire la Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées à l'Université Populaire, et qu'est-ce que les uns et les autres ont à se dire. Alors, peut-être rappeler quelque chose que vous connaissez par cœur sur l'histoire de l'éducation populaire, mais en tout cas, d'un côté, le mouvement d'éducation populaire milite pour une diffusion de la connaissance au plus grand nombre, avec l'idée d'aider tous les citoyens, y compris les plus démunis, à se saisir de leurs droits et de leurs devoirs dans la société, avec une approche double de promotion individuelle, collective, sociale et culturelle, mais aussi avec une approche d'engagement dans la cité. De son côté, la Fondation est attentive à la question de l'universalité en interpellant l'ensemble des membres de la société civile et en faisant la promotion de pratiques qui permettent aux personnes qui sont en situation d'exclusion, et notamment d'exclusion liée au logement, de trouver une place dans le droit qui s'applique à tous, de les aider à accéder à un toit, de s'y maintenir, mais aussi de les aider à retrouver la maîtrise de leur quotidien. Donc il y a bien du commun entre les actions de partage du savoir, qui est un des fondements de l'éducation populaire et du mouvement social, et des dimensions plus larges d'interpellation de l'ensemble des acteurs de la société civile qui est sur la question du logement cette préoccupation est portée par la Fondation Abbé Pierre. À l'heure où pèse fortement le risque que le regard sur le logement, la pauvreté, la protection des plus fragiles ne se modifie, la Fondation est plus que jamais attentive et mobilisée pour éviter que les citoyens ne cèdent au découragement. À ce propos, je citerai très rapidement récemment le CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, a publié une note qui soulignait que l'idée que les plus pauvres... A récemment souligné que l'idée que les plus pauvres soient les responsables de leur situation était une idée qui était en progression. Ce constat inquiète le CREDOC, qui doit nous inquiéter également. On est inquiète d'une tendance nouvelle, alors qu'en temps de crise, la montée de la solidarité était plutôt la norme. Donc, j'en viens, c'était une petite remarque un peu liminaire pour se dire ce que les uns et les autres on a en commun dans cette affaire. Maintenant, je vais passer à la deuxième phase de politesse, qui va être de présenter les intervenants. Peut-être rapidement rappeler que donc cette session elle a été proposée par la Fondation Abbé Pierre, en particulier par Marc Curie, qui était l'ancien directeur de la Fondation Abbé Pierre. Donc, il y aura 3 dates. Le mardi 18, où seront abordées les questions de rénovation urbaine et de la prise en compte de l'espace public comme problème de la rencontre. Le 25 novembre seront interrogés les liens médecine-action sociale à travers le rôle de l'hygiène dans la détermination des formes urbaines et des conditions de vie. Et enfin, pour commencer la séance du jour, nous aborderons la question de l'adaptation de l'architecture aux évolutions sociales. Et pour nous éclairer, on va avoir le plaisir de pouvoir nous appuyer sur l'expérience de 3 intervenants, que sont Olivier Brachet, qui est vice-président Grand Lyon au logement, Alain Vargas, qui est ici, à mes côtés, qui est architecte à l'agence Tectonique, et au milieu de l'Assemblée, Gabriel Civil, qui est maître d'ouvrage au GIE Est Habitat, qui est un outil de mutualisation à la fois des bailleurs sociaux et des acteurs de l'hébergement et de l'accompagnement, peut-être vous y reviendrez. Pour terminer cette introduction, je vais laisser la parole aux experts ce soir. Pour revenir un petit peu sur les attendus de la thématique de la conférence de ce soir, je ferai 2 remarques préliminaires. La première, c'est de dire qu'il s'agira moins ce soir, comme le laisse entendre le titre, d'évaluer l'architecture en tant que telle. Je pense que vous serez assez d'accord, Alain, que les choses soient ainsi, mais bien d'aborder la question du logement, notamment de la question, plus particulièrement la question de la production et de la place de chacun des acteurs dans ce processus, et en l'occurrence ce soir, la place de l'architecte, de l'acteur institutionnel et du maître d'ouvrage. Donc la place de chacun dans un contexte doit être aussi tenue ensemble, construction de masse pour répondre à la pénurie de logements et proposition de gamme, de formules de logements suffisamment diversifiées dans l'usage, le prix, le mode de gestion, les services autour de l'environnement, suffisamment diversifiées donc pour tendre, sans verser dans la réponse individuelle, à prendre en compte la diversité des situations économiques, des modes de vie d'un côté et l'évolution des besoins des personnes à plusieurs séquences de leur vie. Bonjour, parce que je continue à parler, des gens rentrent, excusez-moi, installez-vous tranquillement. Peut-être la deuxième remarque, ça serait aussi de dire que ce soir il ne s'agira pas de trouver la recette pour régler tous les problèmes, comme si cette dernière elle préexistait et qu'on n'aurait plus qu'à la saisir, mais bien de donner à voir la situation, les logiques à l'œuvre en matière de production de logements, en sachant qu'on a un temps très court aussi, d'interroger les modèles de référence et les impacts, évoquer ce qui fonctionne, identifier les carences donc, dans la gamme de logements produits aujourd'hui et les catégories de personnes pour qui ça fonctionne moins bien, voire pour qui ça ne fonctionne pas du tout. Et enfin, d'éclairer les conditions à réunir de ce qui est possible de faire en matière de production de logements, de satisfaction des besoins de la population, hein, dans sa diversité, les besoins de tous, aussi bien les riches que les pauvres, les personnes jeunes comme les personnes plus âgées, les isolés comme les familles avec les enfants, enfin comme les familles avec enfants, les personnes en emploi comme les personnes qui n'en ont pas. Et là, on raccroche avec le titre de l'intervention de ce soir, on n'est pas des sardines, et donc où sont aujourd'hui les boîtes à sardines et comment collectivement on avance pour en sortir. Voilà, je ne tiens pas plus longtemps le crachoir comme on dit, et pour démarrer, je vais donc me tourner vers Alain Vargas, qui est architecte, et lui demander de démarrer cet éclairage sur la situation depuis son point de vue d'observation. Je vous laisse la parole.
Merci, bonsoir. J'ai donc ce soir un peu la casquette de l'architecte, mais bon, à force, il ne s'agit pas d'une casquette représentative, donc je ne représente que ma propre parole, que ma propre expérience et que ma propre vision des choses, bien entendu. Ceci dit, si vous voulez tirer sur l'architecte, n'hésitez pas, il y en a un ce soir. La question qui était posée, on va dire, en préambule de cette intervention, en substance et en résumé, finalement, je peux la résumer ainsi, donc, quelles nouvelles formes, pour quels besoins, et finalement, face à quels obstacles? Pour répondre à cette question, d'abord, il convient évidemment de cerner quels sont ces besoins nouveaux qui seraient devenus inassouvis dans des formes architecturales et urbaines héritées, a priori, de modèles passés. Est-ce qu'on peut en dresser une liste exhaustive, analyser leurs incidences sur les modes d'habiter, et par là, effectivement, espérer les traduire et les satisfaire spatialement par de nouvelles formes, de nouveaux types d'habitat? L'architecte n'est pas sociologue, évidemment, et quand il a essayé de l'être, cela n'a pas toujours été forcément une réussite, hein, on est bien conscient. Tout au plus, on peut dire qu'on essaye d'être des observateurs avertis, qui tentent de sentir un peu leur époque, d'en avoir une lecture le plus possible transversale, et d'en extraire ce qui pourrait dialectiquement, dirons-nous, agir sur les espaces qu'on lui demande de concevoir, et aussi, bien évidemment, d'en anticiper le devenir. Le plus souvent, son métier consiste à traduire en espace une demande formulée au travers de ce qu'on nomme des programmes. Ces programmes sont des sortes de cahiers des charges plus ou moins formels, plus ou moins aboutis, qui sont rédigés par ce que l'on appelle des maîtres d'ouvrage, des commanditaires et économiquement des clients. Excepté dans le cas de maisons individuelles, par exemple, conçues pour le compte de clients utilisateurs, à proprement parler, les maîtres d'ouvrage construisent généralement pour le compte d'autrui. Un autrui qui n'est pas toujours identifié, évidemment, qui est souvent lui aussi un client anonyme, et très souvent, voire assez systématiquement, inconnu au moment de la conception des espaces qui lui seront donnés d'habiter ultérieurement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que faute d'une connaissance précise de ces futurs habitants et de leurs besoins, maîtres d'ouvrage et architectes, à des niveaux différents, évidemment, tentent d'en dresser des profils qui sont souvent, stéréotypés au filtre de leurs propres expériences ou de celles de gestionnaires ou de celles de commerciaux encore qui sont censés savoir ce qu'il faut vendre et à qui et quels sont les types d'habitats, de produits qui correspondent le mieux à leur clientèle ou à leur service gestionnaire, on va dire. Reconnaissant tout de même la difficulté de cerner cette complexité, la complexité de nos vies contemporaines dans leur multiplicité, dans leur diversité apparente, et qu'il paraît a priori en première approche impensable de servir individuellement dans toutes leurs particularités. Quelle est donc cette complexité dans l'état de ces évolutions contemporaines dont il convient en plus, je le disais tout à l'heure, d'anticiper l'avenir, compte tenu des temporalités qui accompagnent la production du cadre de vie, puisqu'on travaille sur des échelles de temps qui sont souvent très longues. Donc qui sont ces habitants? Quels sont leurs profils? Qu'attendent-ils vraiment de leur logement? Ont-ils vraiment des besoins différents de par la nature nouvelle liée aux évolutions de la société? Alors l'architecte qui tente de comprendre pour dépasser une commande stéréotypée se trouve alors au mieux confronté à ses connaissances, évidemment, à son expérience, au diagnostic de chercheurs, de sociologues, à l'expérience de ses maîtres d'ouvrage, et qui dresse ainsi un état des lieux dont il tentera d'extraire les déterminants spatiaux qui sont susceptibles de stimuler, on va dire, sa créativité, ou tout du moins sa production conceptuelle, en tout cas. Et donc, au travers de ça, essayer de cerner quels sont ces nouveaux modes de vie contemporains, si toutefois la demande existe, puisqu'elle demande pas, elle n'est pas forcément systématique, et puis, qui plus est, compte tenu du travail qui est le nôtre, ces nouveaux modes de vie sont-ils véritablement modélisables d'une certaine manière? Alors il y a plein de questions qui se posent, donc je vais en énumérer quelques-unes, mais je vais peut-être vous noyer sous finalement les questions qui sont les nôtres pour essayer de vous faire percevoir un peu du doigt toute cette complexité. Donc. Qu'est-ce que la famille aujourd'hui? Quels en sont les types? Quelle en est la répartition? On parle de famille mononucléaire patriarcale, de couple hétéro ou homo, avec ou sans enfants, de célibataires isolés, de cohabitants, de colocataires, qui le sont en permanence ou temporaire, des étudiants, des actifs ou sans emploi, des familles élargies, un parent à la maison, quels âges, jeunes ou vieux parents, enfants en bas âge, adolescents, jeunes adultes tardant à quitter le domicile parental. Quelle influence de l'évolution de la pyramide des âges, du vieillissement, de la maladie, du handicap? Quelles adaptations ergonomiques il faut faire pour répondre à ces demandes, des dimensions, des surfaces? Quelles réponses au regard des ressources financières, des solidarités autour de ces fragilités? Quel type de gestion spatiale? Est-ce qu'on traite de choses à domicile, en résidence spécialisée, médicalisée, ou de simple résidence-service? Comment gérer la perte d'autonomie, la dépendance, le confort adapté et le besoin d'appropriation, l'intimité et la sécurité, les temporalités liées à des rythmes de vie qui leur seraient adaptés? Ou bien encore, qu'est-ce qu'un mode de vie, des pratiques, des usages culturels de l'espace? Qu'est-ce qui a changé dans les façons de cuisiner, de manger, de recevoir, de dormir, de se reposer, de se détendre, de séjourner, de consommer, de se cultiver? Quel rapport au corps, à l'hygiène, aux soins, à la sexualité? Qu'en est-il de l'intimité, du partage, du rapport à l'autre et à la vie collective? Qu'est-ce que d'être voisin? Comment vit-on avec ses amis, les visiteurs, l'étranger? Quels sont les seuils entre le public et le privé? Puis encore, quel rapport au monde des objets, à la consommation des biens matériels, quelle place occupe-t-il dans nos espaces de vie? Sommes-nous prêts ou désireux de partager des objets qui signifient souvent symboliquement l'appropriation et l'identité de nos univers personnels? Quel rôle et place du logement confie-t-on au mobilier et à contrario à l'immobilier? Et encore, quelles sont les temporalités de ces modes de vie et leurs incidences sur les façons d'habiter? Quel rythme, fréquence, durée, synchronicité des usages de l'espace? Le déterminisme jour-nuit, assez fréquent dans le domaine du logement, est-il toujours opérant? Quelle particularité spatiale en réponse aux évolutions contemporaines? Comment répondre aux besoins d'aujourd'hui et nécessairement anticiper? Comment penser l'adaptabilité, l'évolutivité, ou bien peut-être la neutralité du logement? Comment penser au-delà la mixité, la diversité de ces modes de vie? Faut-il poser le principe de l'indifférencié au risque de l'homogénéité qui pourrait être inadaptée? Ou au contraire de la spécificité au risque peut-être de dérive individualiste ou peut-être même communautaire parfois? Au-delà de la question de l'habitant, l'architecte est encore confronté à d'autres responsabilités qui évoluent aussi avec notre époque. Quel rapport à l'histoire? Qu'est-ce que le patrimoine? Que faut-il en garder, reproduire, modifier? Qu'est-ce que la contemporanéité? Quel poids des symboles, des images, des codes sociaux? Des choses qui paraissent très génériques, mais qui de toute façon s'intègrent dans le processus de conception. Sur le logement, quelle est la valeur à accorder et à donner à l'espace qui constitue notre habitat? Une valeur symbolique, affective, patrimoniale, pécuniaire, ou alors de simples services, produits de consommation? Quel coût? Quels investissements? Pour quelle qualité? Quelle plus-value pour la société et quels intérêts spéculatifs? Quelles influences sur le bon ou le mauvais fonctionnement de nos sociétés? Et encore, je continue, excusez-moi, n'habite-t-on que l'intérieur d'un logement? De quelles extériorités habitables avons-nous besoin pour vivre? quelles actions ou traductions de nos rapports au monde, à l'environnement, à la nature, à la ville, au territoire, à notre cadre de vie au sens large. Mais qu'elle passe aussi pour l'écologie, vous le savez aujourd'hui, la santé, la qualité de l'air, de la lumière, de la maîtrise et de la réduction des consommations de ressources vitales non renouvelables. Quels matériaux, quelles techniques, quels modes de production, quelle économie, mais aussi quelles incidences de nos choix locaux sur les grands déséquilibres globaux entre pays pauvres, riches, producteurs ou consommateurs, à la fois sur notre planète et le monde fini. Pour habiter, il faut construire et entretenir, et ou sans cesse démolir pour reconstruire. Cela a aussi un coût, celui du sol, de la construction, des acteurs de la production du cadre de vie, du fonctionnement, de maintenance, de démolition, de recyclage, de l'impôt. Il y a le coût de l'argent aussi, le coût global, économique, social, environnemental. Il y a aussi un marché du cadre de vie avec son dynamisme et ses récessions. Ne dit-on pas, dans le langage commun, que quand le bâtiment va, tout va. Face à ces coûts, il y a aussi un prix à payer pour habiter. Et il est simple d'imaginer quelles en sont les incidences sur la nature même des lieux que l'on habite et sur les possibilités de trouver des habitats qui conviennent à la diversité des situations de vie, avant même que de parler des modes de vie. Mais j'arrête, stop, d'une certaine manière, je laisse volontairement de côté la question de la créativité ou de l'œuvre de l'architecte, de sa capacité comme celle des autres acteurs à aborder cette complexité, à innover, à proposer des réponses plus adaptées à notre monde contemporain, et aussi à assumer les responsabilités, autant des erreurs, échecs que des avancées. Après cela, y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite devenir architecte dans la salle ? Toujours est-il que ces questions innombrables suggèrent de tenter d'expérimenter une grande variété de propositions, de types d'habitat et de modes de production pour espérer, on va dire statistiquement, satisfaire au plus grand nombre et à leur diversité. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut dresser un petit constat rapide ? Une rapide première observation semble au contraire montrer une homogénéité croissante, pour ne pas dire une banalisation des types d'habitat, accompagnée en plus d'une inversion de la courbe d'augmentation des surfaces observées depuis l'après-guerre, puisque, contre même certaines idées préconçues, finalement, après-guerre, les logements n'ont cessé de grandir en surface. Et aujourd'hui, on est en train de constater une inversion de cette courbe. Je donne un exemple. Par exemple, la généralisation des modèles type 1, 2, 3, 4, 5 avec des surfaces qui sont encadrées, qui ont aujourd'hui tendance à baisser. Un petit exemple illustratif, un type 2, donc un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain, un sanitaire, il y a 15 ans oscillait pour une surface qui était entre 48 et 55 mètres carrés. Il se situe aujourd'hui entre 38 et 45 mètres carrés. Quelles en seraient les raisons possibles ? Là aussi, je vais faire un petit peu une liste très verte, énumérative, excusez-moi. Peut-être d'abord le poids des habitudes et des facilités. Il se peut que les modèles culturels changent moins vite que les modes de vie, finalement. Exemple, l'organisation du logement en deux secteurs, un secteur jour et un secteur nuit. Ou bien encore la répartition des surfaces entre chacune des pièces. La notion de pièce, on peut aussi l'interroger, est-ce encore une notion qui est pertinente ? Ceci dit, dans le logement, on trouve toujours le séjour, le salon, la cuisine, la salle à manger, les chambres et les rapports de dimension entre elles, des sanitaires séparés ou intégrés à la salle de bain, des salles de bain, cabinets de toilettes, des rangements, des celliers. Tous ces espaces-là, finalement, sont un peu toujours présents et on les trouve tout au long de l'histoire et assez peu d'évolution. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce découpage de l'espace correspond encore à ces modes de vie qu'on dit contemporains ? On ressent aussi de même un peu pertinent aujourd'hui l'hégémonie des modèles fonctionnalistes qui sont issus, vous le savez, du mouvement moderne et de l'industrialisation du bâtiment après-guerre et qui caractérisent bien souvent avec simplisme la vie et l'habiter en simple fonction vitale, manger, dormir, séjourner, se laver. Ou bien encore, on va dire, la perduration des modèles de l'habitat bourgeois avec ses vestibules, salons de réception, salle à manger, chambres privatives, on appelait ça les appartements. Déconnecté des cuisines et des dépendances. On le voit toujours, y compris dans le logement social, reproduisant la structure traditionnelle de la famille avec les espaces servants et les espaces servis, à l'image, on peut dire, d'une société patriarcale tenace, en caricaturant le salon de télé pour les hommes et la cuisine pour les femmes. Les enfants ayant les plus petites chambres, évidemment, qui sont souvent partagées. Si on examine maintenant les modes de production à une échelle plus large, on note que rarement ceux qui habitent sont ceux qui programment, qui imaginent ou qui réalisent leur habitat. L'utilisateur n'est finalement que le consommateur de produits, entre guillemets, habitats qui lui sont proposés sur un marché du logement qui est très encadré et, je le disais, probablement très stéréotypé. En effet, ces produits sont pensés pour répondre aux soi-disant attentes d'une majorité homogène qui aurait les mêmes besoins ou les mêmes désirs. Combien de fois ai-je entendu des banalités du genre « on veut des produits qui correspondent au marché lyonnais » ou bien « le français est classique, il préfère la pierre, il n'aime pas les duplex » ou « entrer par le séjour ». Ces certitudes étant par ailleurs acquises par l'expérience de souvent aussi de commerciaux vendeurs sur des marchés connus, analysés, maîtrisés. Peu d'innovations attendues, selon eux, parce que celles-ci ne se vendent pas. Bon. Ou bien est-ce une certaine inertie qui est liée à la peur du risque économique lorsqu'on ne possède pas de données fiables sur l'époque contemporaine ou et plus difficile encore sur la prospective. On continue de programmer des opérations avec les mêmes pourcentages de type prédéfinis. Dans nos programmes, on nous dit toujours il y a tel pourcentage de T2, tel pourcentage de type 3, bon, sans même effectivement parfois en être bien certain, en tout cas pour ce qui nous concerne. Sans connaissance précise des demandes, on lance des programmes qui sont souvent des programmes banalisés du point de vue du programme, quitte à tout bousculer une fois les projets en phase opérationnelle. On trouve souvent ça dans le monde de la promotion privée qui il y a plus tendance à vouloir s'adapter à des réalités de marché plus immédiates, en flux tendu à la Leclerc, comme on dit, et au plus près du consommateur et de ses attentes. Donc il nous faut, nous architectes, souvent concevoir des immeubles, par exemple, en regroupant les T2 avec les T3 pour pouvoir les transformer facilement en grands logements si besoin, parce que de toute façon, on ne prévoit pratiquement plus de grands logements. On veut aussi peut-être pouvoir vendre en bloc à des investisseurs si on n'arrive pas à vendre son programme, c'est souvent ce qui peut arriver, qui eux à leur tour défiscalisent et on peut supposer alors que le produit d'appel assez fréquent pour les investisseurs c'est le fameux petit type 2 qui du coup devient encore plus banalisé et qui sature d'une certaine façon l'offre aussi en matière de logement. Vous voyez, donc, il est assez difficile dans ces modes de production de penser le logement de manière originale et personnalisée, on va dire. Si on s'attache encore à une autre question, qui est celle de la question des coûts, on examine aujourd'hui en moyenne des répartitions suivantes qui ont tendance à assez peu bouger finalement. Donc il y a le coût du foncier, le coût des études, les frais commerciaux de gestion, les coûts de construction, les marges, les taxes, pour faire le plus simple. Cela, au-delà de ça, si on approche les questions en termes de coûts global, on va dire, s'ajoute ce qu'on appelle les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance, mais qui sont difficiles à analyser puisqu'ils dépendent assez systématiquement de certaines particularités de programmes, si vous avez des programmes qui sont pensés comme très économiques sur le plan énergétique, par exemple, ou dans le logement ancien, des choses qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, comme on dit, par exemple. Mais ce qu'on constate, là aussi c'est l'architecte qui vous parle, vous allez dire, on voit que la part qui est réservée aux études est particulièrement faible dans ce scénario-là. Pour vous donner un chiffre, le coût des études sur le coût global d'une opération, c'est à peine 3% de la masse globale d'une opération globale. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en absence de croissance économique, évidemment, il y a un marché de la construction qui se tasse assez lourdement. Donc on peut dire qu'on est dans une période de crise ou de récession pour certains. Et dans relativement à ce marché, il y a des choses qui restent relativement incompressibles, les taxes, les impôts, même s'il y a quelques variations. Et on observe que les maîtres d'ouvrage, bien évidemment, tentent pour conserver soit leur marge d'un côté, soit des prix de vente ou de location qui soient rentables ou acceptables par les futurs utilisateurs, on va dire, relativement à leur niveau de vie. Il faut bien évidemment essayer de compresser le plus possible les productions. Donc, ce qu'on observe, nous, c'est que ça oriente assez naturellement la production vers des logements qui sont plus petits. Je le disais tout à l'heure, un type 2 est passé de 52 mètres carrés en moyenne à 42 mètres carrés avec aujourd'hui. Des logements en accession qui sont plus petits, par exemple, que les logements sociaux. Cela se complexifie alors quand on sait qu'aujourd'hui, presque 50% du logement de certains bailleurs sociaux est produit par des promoteurs privés en VEFA, ce qu'on appelle la vente en fin d'achèvement, et donc qui, là aussi, correspondent à une relation économique particulière avec le monde de la promotion immobilière privée et le monde des bailleurs sociaux. Nous, architectes, on continue de s'interroger sur cette équation-là, mais Olivier Brachet le dirait aujourd'hui, il faut faire, et comment est-ce qu'on fait, quoi, très concrètement, quels sont les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. point d'étude, toujours plus rapidement, il y a quelques années, je vais vous donner des chiffres qui évidemment vont vous faire sourire, parce que vous allez dire l'architecte défend son gagne-pain, mais vous allez comprendre pourquoi. Un architecte était rémunéré environ 6% du montant des travaux pour concevoir des logements. Je parle que de la mission de l'architecte. Aujourd'hui, certains d'entre eux négocient aux alentours de 3% leurs études pour concevoir des logements. Alors que, si on veut être honnête, globalement, l'ensemble des obligations professionnelles et réglementaires se sont démultipliées. Donc il y a moins d'argent consacré à la construction. Il y a quelques années, nous construisions des logements sociaux ou privés pour un coût qui avoisinait à l'époque, en euros actuels, si vous voulez, 1600 euros hors taxe du mètre carré habitable. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 1230 euros du mètre carré, hors taxe du mètre carré habitable. Donc, vous imaginez bien que ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur la conception des logements eux-mêmes. Il y a une autre question concernant la valeur du logement. Son coût, c'est aussi sa valeur. Donc, on sait que la valeur patrimoniale, c'est aussi un paramètre assez standardisateur, puisque, on va dire, la recherche de produits à valeur vénale constante, ou encore plus spéculative, on va dire, pousse plutôt vers une certaine sécurisation des produits en vue de leur revente, qui sera d'abord garanti par la localisation des produits, et puis ensuite des produits relativement banalisés qui soient susceptibles de correspondre à un échantillon de population le plus large possible. Pas de produits trop ciblés qui ne pourraient intéresser qu'une minorité d'acquéreurs potentiels ou d'utilisateurs potentiels. Donc on imagine aussi, là aussi, simplement l'incidence de ces tendances sur la qualité ou l'innovation. Des logements plus petits, des normes incontournables sur les dimensions minimales rendant les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, moins d'argent. Comment alors sortir du logement où le séjour a aujourd'hui phagocyté la cuisine et où la salle de bain et le WC seront bientôt plus grands que les chambres? Si vous avez encore le courage, on peut un peu parler des normes. Je vais vous en citer quelques-unes. Code de l'urbanisme, de la construction, code civil, plan locaux d'urbanisme, plan de protection des risques, règlement de ZAC, cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères, sécurité incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, réglementation thermique, acoustique, code du travail, Eurocode, DTU, REF, j'en passe, on arrête là. Il y a des milliers de règles, en fait, qui s'imposent et qui parfois sont même incohérentes entre elles. Ça, on l'observe au quotidien dans notre métier d'architecte. Je vous laisse aussi imaginer la difficulté de faire converger des objectifs avec des résultats autrement qu'en reproduisant des recettes, des habitudes dont on serait d'expérience qu'elles vont nous permettre de satisfaire nos obligations professionnelles sans trop d'erreurs, de risques engageant notre responsabilité puisque nous engageons notre responsabilité, ou bien plus tristement encore, de surtravail non rémunéré. Architecte avec sa vraie casquette qui ne pense qu'à ses honoraires. Sans oublier bien sûr la capacité à connaître, à actualiser, à maîtriser la multitude de ces règles face aux exigences et à la multiplicité des acteurs, des contrôleurs, des décideurs. Tout cela, je le disais, sous une pression économique de plus en plus forte, des responsabilités de plus en plus lourdes, des moyens de plus en plus restreints et des délais de plus en plus courts. J'arrête, on va dire, laissant à mes collègues hein, le soin de développer des autres questions institutionnelles, politiques, de compétences des acteurs, de formation, de compétition, de compétitivité dans un environnement économique, social, local, de monde global, de libre-échange, de commerce international et de règles formelles ou informelles qui s'imposent à nous avec parfois une certaine violence. Je voudrais terminer sur quelque chose de plus positif, bien évidemment. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, architectes, pour essayer de faire bouger un peu ces lignes, d'une certaine manière? On est assez conscient aujourd'hui du rôle que l'architecte peut jouer dans ce panorama général des acteurs. On peut déjà essayer de réfléchir, on le fait ce soir avec vous, hein, d'analyser et de comprendre ces mécanismes qui sont des mécanismes pour nous uniformisateurs. Essayer aussi de se fixer des objectifs avec nos maîtres d'ouvrage qui soient des objectifs raisonnables, d'essayer de les hiérarchiser. Ces objectifs soient évalués et convergents plutôt que d'imposer des recettes, puisqu'on sait que ça fonctionne, que ça permet d'obtenir des financements sans trop de difficultés d'une certaine manière, en tout cas avec le moins possible. On peut aussi essayer, pour ce qui nous concerne, de sensibiliser et de convaincre ces acteurs en dialoguant avec eux, en les faisant collaborer, c'est ce que vous faites ce soir aussi, afin de mesurer du mieux possible, en tout cas, dans le peu de temps qui nous est donné, l'écart qui existe entre les intentions, on va dire, spécifiques de chacun et les résultats observés. et ces constats, on l'espère, sont susceptibles de faire bouger les cadres. Je parlais des règles tout à l'heure, par exemple, il ne s'agit pas de les supprimer. On est tous bien conscients que la dérégulation, ce n'est pas toujours une chose, toujours justifiée, mais à minima, d'essayer de les faire converger, de les dépoussiérer un peu quand c'est possible, pour essayer de les adapter à nos réalités, aux réalités de notre société, et peut-être, in fine, d'en supprimer certaines, qui seraient devenues obsolètes, mais toute la mesure nécessaire, c'est difficile d'établir des règles et elles sont souvent justifiées et donc il ne s'agit pas de les écarter comme ça du jour au lendemain. On observe avec attention, nous, des premières expérimentations, par exemple sur le mode de production qui s'ouvre aujourd'hui à de nouveaux acteurs, de nouvelles méthodes, de nouvelles valeurs, qui laissent plus de place peut-être aux habitants, à des choix de société différents, à l'écologie, au rejet du consumérisme et de la spéculation, au partage et peut-être un peu plus de place aux relations humaines. Je citerai effectivement les opérations en France qui commencent à apparaître. On en a déjà vu un certain nombre à l'étranger, mais par exemple autour de l'habitat coopératif ou de l'habitat participatif, qui sont des expériences nouvelles, il faut bien, et qui méritent d'être observées pour en mesurer la performance, on va dire, ou en tout cas l'intérêt. On travaille aussi par ailleurs à essayer de minimiser l'impact du prix du foncier par action publique, avec Olivier le dira probablement, aujourd'hui des réflexions sur la question du démembrement ou de nouvelles formes de cession du sol. Bon, là, c'est des sujets qui sont très très complexes et qui dépassent mes compétences, mais on sait que ce sont des questions d'actualité. On s'acharne pour notre part à essayer de faire baisser les coûts de construction intelligemment, le plus possible, bien évidemment, par le recours à de nouvelles techniques, à la préfabrication, à de nouveaux modes de production. Au risque d'aller peut-être, malheureusement, vers une nouvelle politique des modèles, ce qu'on voudrait éviter, mais on observe qu'effectivement, celle-ci, aujourd'hui, y redevient fortement d'actualité. Je parlais de produits tout à l'heure, mais il s'agit bien de ça, concevoir des produits qui sont techniquement et qualitativement cernés par des cahiers des charges précis, et qui sont une réponse formelle, comme vous achèteriez une voiture avec telle caractéristique, telle qualité, on va dire. Bon. On cherche aussi à concevoir de nouveaux types de logements plus adaptés effectivement à des parcours de vie qui sont évolutifs. Donc on réfléchit à des problématiques de grands logements qui seraient divisibles, des logements qui seraient adaptés à la colocation, des logements qui pourraient être en gestion partagée, la question d'une pièce partagée à donner. Bon, c'est des sujets qui sont sur les tables, mais qui nécessitent forcément d'avoir en face de nous des demandes aussi. Donc je me tourne vers les maîtres d'ouvrage par rapport à ça. On souhaite aussi, et là c'est un sujet extrêmement difficile, de répondre aux difficultés de la vie, que bien évidemment on souhaite passagère, mais tout à l'heure je parlais du T2+, aujourd'hui on nous demande par exemple de concevoir des T2+, je disais tout à l'heure un T2 c'était en moyenne entre 42 et 52 mètres carrés, donc on nous demande de concevoir ce qu'on appelle des T2+, qui sont des logements de deux pièces principales, je disais un séjour et une chambre, avec les pièces cuisine et les pièces sanitaires, de 55 mètres carrés, qui pourrait devenir un T3 de façon temporaire, en comprend pour des familles monoparentales, qui reçoivent leurs enfants occasionnellement, ou qui l'accueillent d'un parent malade. On travaille sur des sujets qui sont encore même plus ardus. Récemment, un promoteur nous a demandé de travailler à des types 3 de 25 mètres carrés, pour familles monoparentales en situation d'urgence sociale. On n'est pas magicien, mais...
J'allais dire c'est grand.
C'est plus grand qu'une cellule, ça, on est d'accord.
Donc, une chambre.
Voilà. Puis enfin, donc, pour terminer et conclure, excusez-moi si j'étais un petit peu long, on croit aussi aux vertus d'un véritable développement durable qui dépasserait les déjà difficiles objectifs de performance énergétique. On sait que c'est une vraie grosse question. Mais qui, à notre sens, donnerait à l'architecture son véritable sens, à savoir créer véritablement l'habitat des hommes qui soit le plus adapté à leurs besoins, mais aussi et surtout le plus respectueux de leurs ambitions de vie. Voilà, merci.
Bon, ben, merci Alain d'avoir éclairé un peu ces points-là et on voit bien donc que tu as soulevé le décalage entre un contexte économique, politique, social, normatif qui tend un peu à uniformiser la production de logements, voire quelquefois un peu à appauvrir un peu les choses, quand tout dans la situation des personnes et la situation économique globale appelle à permettre aux gens à la fois à proposer des formules un peu diversifiées et permettre à des personnes d'avoir un logement qui ne coûte pas plus d'un tiers du budget, enfin, qui ne leur coûte pas les yeux de la tête, qui leur permet peut-être autre chose que des boîtes, donc qui appelle aussi à se poser la question de ce que c'est que la boîte et l'extérieur de la boîte. Bon. Du coup, on va passer la parole à Gabriel.
Merci.
Bonsoir. Donc Gabriel Sibyl, je représente 4 structures pour une raison toute simple, c'est que la sardine, quand elle a trouvé son logement, est extrêmement casanière. Donc la sardine ne bouge plus quand elle a trouvé sa boîte, pour des raisons bonnes et mauvaises. Mais le constat qu'on a fait, donc les structures que vous voyez derrière vous, Est Métropole Habitat, qui est un bailleur social qui gère 13 500 logements sur l'est de la métropole lyonnaise, Aralis, qui est une association qui gère des résidences sociales, ancien foyer Sonacotra, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, Alinéa, qui est une association qui pratique ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Donc ils vont proposer des logements, des types d'hébergement à des personnes qui sont soit sans papier, soit sans travail. Ils vous posent pas de questions. L'accueil est inconditionnel. Et Ronson Habitat, qui est une coopérative, un bailleur social comme Est Métropole Habitat, et qui construit de l'accession sociale en grande partie sécurisée. Donc on s'est rendu compte que les sardines, idéalement, devaient pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc les 4 structures se sont regroupées au sein d'un GIE, ça s'appelle le GIE Est Habitat, et il y a des personnes qui travaillent tous les jours pour que, quand une personne a des difficultés, ben, elle puisse passer de chez Est Métropole Habitat à un logement qui sera plus accompagné chez Alinéa ou chez Aralis, ou inversement, on constate que beaucoup de personnes qui profitent de l'accession sociale sécurisée, bénéficient de cette accession sociale, elles viennent du locatif social. Donc on les aide à libérer des logements pour des personnes qui en ont à ce moment plus besoin qu'elles. Donc je précise, je ne sais pas si c'est clair pour vous, chacun d'entre vous, qu'est-ce que le logement locatif social aujourd'hui. Donc je passe très rapidement là-dessus parce que ce n'est pas l'enjeu de ce soir, mais donc il y a différents noms, différents niveaux, c'est des gammes de logements sociaux, le plus, le PLAI, le PLS, chacun de ces types de logements fait appel à un niveau de loyer et à des niveaux de ressources que les personnes, des plafonds de ressources que les personnes ont. Donc là, on va rentrer dans le débat de ce qui a été évoqué juste avant. Donc on a on va dire, un programme type. Et ce qui est important de savoir, c'est que on décline, donc le T2, vous voyez, 42 mètres carrés, le T2 plus 50 mètres carrés, parce que pour nous, un T2, un petit T2, ça correspondra à une famille qui se constitue, et un T2 plus, ça correspondra plutôt à des personnes âgées qui ont un peu plus de mobilier. Puis on se rend compte, en fait, dans notre patrimoine, que finalement, les personnes âgées, parfois, elles vivent pas dans la même chambre, donc elles vont plutôt vouloir un T3. Donc on va faire des T3 qui sont aussi assez grands. Et du coup, je rebondis sur un élément qui est extrêmement important pour nous, c'est qui sont nos sardines. Pour un bailleur social comme Est Métropole Habitat, aujourd'hui, 25% de ses locataires sont des personnes qui sont des personnes âgées. Donc aujourd'hui, les sardines, c'est en grande partie des personnes âgées dont on nous demande de tout faire pour qu'elles puissent rester le plus tard possible dans leur logement. Donc ça, c'est un élément qui est important aussi par rapport aux surfaces qu'on propose. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces personnes âgées, elles sont dans des grands logements. Et qu'elles sont dans des T4, des T5, qu'elles avaient obtenues quand elles avaient des enfants. Et aujourd'hui, elles bloquent l'accès de ces T4 et ces T5 à des familles qui en auraient bien besoin. Donc à nouveau, on rentre dans ce schéma de la mobilité qu'on essaie de mettre en œuvre au quotidien. Donc ça, je vous donne juste un point qui contredit légèrement ce qui a été dit, mais c'est que c'est un repère, et qu'en fonction de chaque projet, on va adapter le pourcentage, en fonction des demandes du Grand Lyon, des demandes de la ville et du site sur lequel on va s'implanter. On va dire, bah là, il faut plus de T2, là, il faut plus de T3, ou au contraire, sur ce secteur, il n'y a pas de T5, donc on va faire plus de T5. Donc ça, c'est juste un élément pour dire qu'on essaye de s'adapter à un contexte. Je vous donne un autre repère qui rejoint ce que vous venez d'évoquer. On voit que notre T3 moyen, il fait 66 mètres carrés. Un bailleur social à Paris, son T3 moyen, il fait entre 52 et 58. Nous, aujourd'hui, on reste sur 66. Mais on se rend compte que finalement, nos logements sont très souvent sous-occupés.
ou suroccupés pendant le week-end. Donc on est en train de se demander, je vous montrerai comment après, on peut essayer de faire évoluer nos logements pour qu'ils fassent, qu'ils répondent à des familles qui sont écartelées entre un, deux ou trois logements. Donc vous avez quelques illustrations ici, les mêmes logements, des parents, un enfant, un nouveau-né, des parents, juste un nouveau-né, des parents, un ado qui l'a, et un jeune couple. Donc on se demande comment petit à petit nos cellules peuvent accompagner toutes ces évolutions qu'il y a au cours de la vie d'une famille. Un autre élément qui est clé, qui rejoint la question des surfaces, c'est que aujourd'hui, je vous ai mis deux familles, donc sur les plus et les PLAI, on voit que sur un T3 par exemple, on va être sur un loyer en plus de 428 euros, et sur un PLAI, un T3, on va être à 380 euros. Ça, c'est hors charge, puisque sur le logement de l'équipe sociale, les charges sont quasiment les mêmes que sur une copropriété privée, elles vont osciller entre 50 et plus de 100 euros par mois. Donc on voit que c'est considérable par rapport au loyer. Bien sûr. Voilà, exactement, merci. Donc là-dessus, l'APL est à déduire. Donc on voit que l'impact de la surface n'est absolument pas anodin. Donc on cherche à optimiser la surface qu'on offre à nos locataires et comprendre quelle est la surface dont ils ont réellement besoin. Je me suis posé la question, mais où sont vraiment les sardines ? Parce que concrètement, sur les 13 500 logements que nous avons, on a très peu de situations qu'on pourrait qualifier d'insalubrité ou de grande suroccupation. Par contre, quand on se promène sur notre territoire, on voit de nombreuses situations qui, certaines, sont totalement inacceptables. La première est sur ce point, le Grand Lyon a mis en œuvre un mécanisme de subvention, on va dire bonifié, je ne sais pas si c'est le bon terme, pour acquérir notamment des immeubles anciens, qui ont, comme ceux que vous voyez derrière nous, et on peut avoir une image, on va dire, assez lambda, et on va se rendre compte que dedans, il y a ce qu'on appelle des marchands de sommeil qui ont découpé des logements, qu'il y a des chambres qui n'ont plus de fenêtres, qu'il y a des personnes qui vivent à quatre dans une chambre sans fenêtre, qu'il y a des conditions de... Je ne vais pas vous détailler tout ça, c'est le travail de la FAB, hein, vous pouvez lire leur rapport. Et donc ça, c'est extrêmement discret dans la ville, mais c'est extrêmement présent. Donc à travers un système de rachat de ces immeubles, le Grand Lyon aide les bailleurs sociaux à les acheter. Il nous subventionne et nous permet de les réhabiliter tout en maintenant les personnes dans les lieux si elles le souhaitent ou en leur proposant notre logement si elles en ont besoin. Et donc là, on met en œuvre des réhabilitations souvent qui sont exemplaires. Donc pour moi, la première situation où on voit des sardines, c'est sur ces logements-là. Je vous ai mis quelques images de ce qu'on peut trouver sur l'est de l'agglomération lyonnaise. Exactement, celui-ci, vous l'avez racheté. Voilà. Ensuite, je reviens sur la question de qui sont nos sardines et je fais une petite parenthèse sur la question de l'innovation et de l'innovation sociale. Donc chez S Métropole Habitat, il y a une équipe de plusieurs personnes qui travaillent sur l'innovation sociale pour, on va dire, faire la sauce qu'on va mettre dans nos boîtes à sardines pour qu'il y ait de la cohésion sociale, qu'on amène des services, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette question des services est vraiment lié à la question du construire, de comment on construit. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Le premier qui n'est pas porté proprement par le GIE, et le deuxième, par contre, sur lequel on s'est engagé fortement, où on aménage des colocations pour des étudiants qui vont derrière s'engager sur la vie de leur quartier, la vie de leur immeuble, à travers des paniers solidaires, à travers l'accompagnement des personnes âgées, bien sûr du soutien ou du soutien scolaire. Les pistes sont multiples. Mais elles nous permettent toutes de dépasser la question du logement et d'essayer de travailler sur la cohésion sociale sur les quartiers. Quelles évolutions apporter à la boîte ? Donc je vous ai mis une petite illustration. On a parlé tout à l'heure des coopératives. Donc ça, c'est le village vertical qui a été fait par Ronson Habitat à Vie Urbaine. Donc là, c'est exactement un exemple où le programme est fait par les personnes qui veulent construire leur logement. Donc là, ce programme, il a notamment donné naissance à des espaces communs très importants, très généreux, à des salles aussi que les acquérants peuvent louer. Donc on se rend compte que c'est à la fois exemplaire et à la fois c'était extrêmement compliqué de construire un immeuble comme celui-ci. Mais donc nous, on va dire qu'on est ouvert et on accompagne fortement ce type d'évolution. Je vous donne là un autre exemple. Où on est en train de construire une résidence sur laquelle on crée ce qu'on appelle des chambres volantes. C'est-à-dire que des T3 peuvent devenir des T4 ou des T4 peuvent redevenir des T3. Donc ça nous permet, dans des situations notamment dites d'urgence, de s'adapter à une configuration des familles qui change, c'est-à-dire sur des logements sur lesquels on a un gros turnover, on va pouvoir éviter qu'il y ait un gâchis dans les surfaces qui sont proposées. Je vous ai mis une autre illustration, là pour parler plutôt de quelque chose qui est pour nous de l'ordre du mix. Est-ce qu'un logement construit peut vraiment évoluer ? Donc là, on voit une sorte de pièce qui a été rajoutée en façade d'un immeuble et on se rend compte que nous, sur les 13 500 logements dont EMH est propriétaire, ça a dû se passer à une ou deux reprises. Donc on voit que une fois qu'un logement est construit, en général, il n'évolue plus. Donc c'est extrêmement délicat de le faire évoluer sur une base. Alors aujourd'hui, on recommence à parler de cloisons mobiles. Donc moi, c'est vrai que j'ai visité notamment ce qu'on appelle les unités d'habitation du Corbusier. Le bailleur social qui les gère à Saint-Étienne, il les retire, ces cloisons mobiles, parce que phoniquement, c'est pas intéressant. Donc on voit que la question de l'évolutivité du logement est quelque chose qui est extrêmement délicat à mettre en œuvre. On essaye quand même, mais on se rend compte que aujourd'hui c'est un peu délicat. Par contre, autre chose qu'on essaye de faire, c'est sur tous nos logements existants d'apporter les mêmes services que ce que vous avez aujourd'hui la chance d'avoir quand vous achetez un logement neuf. Et notamment, ça passe par des espaces extérieurs, parce que s'il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que aujourd'hui, plus on habite dans une ville dense, plus on souhaite être proche de la nature. Donc, et là, notamment la nature, on va dire qu'on la trouve sur son balcon, entre autres. Donc on essaie d'amener, donc là je ne sais pas si vous voyez, tous les balcons sont des balcons de 9 mètres carrés qu'on a rajoutés sur des façades, sur des logements qui n'avaient tout simplement pas... C'était une barre hein, classique, comme toutes celles qu'on a pu construire dans les années 60. Et on apporte tout d'un coup un service nouveau, et du coup on redonne à un logement ancien les qualités d'un logement neuf. Donc on isole et on apporte des balcons. Donc bon, ça coûte un petit peu d'argent, ça augmente aussi un petit peu le loyer. Mais on va dire que ça permet de maintenir le parc existant dans le même niveau d'attractivité que le neuf. Là, je vous ai donné une autre, on va dire, innovation qui est extrêmement classique, hein, mais qu'on a pu tenter, puisque c'est une construction qui est entièrement faite en bois. On est dans un environnement où la ville voulait construire de l'habitat individuel, des pavillons, et donc on a fait plutôt des grosses maisonnées qui nous permettent de faire 4 appartements, d'avoir des espaces communs qui favorisent le vivre ensemble, et avec des structures bois, avec des chaudières bois. Donc là, pareil, on essaye. On va regarder comment ces habitations vieillissent, combien ça nous coûte de les entretenir, et puis on verra comment on arrive à développer ou pas ce genre de système. Ici, une autre situation, c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais on est en train de faire quelque chose qui ne se voit pas, donc j'ai voulu illustrer, de dire comment on occupe nos toits, puisqu'il y a de nombreux exemples d'immeubles à Lyon qui avaient des piscines, des espaces verts sur les toits, etc., qui ne sont plus utilisés. Donc là, pareil, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Et malgré tout, là, on a un exemple d'un bailleur social à Paris qui a réalisé une serre et des jardins sur un toit d'un de ses immeubles. Donc ça, c'est des choses que nous, on est en train de refaire, la souris urbaine notamment. On va faire des jardins familiaux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant de manière assez récurrente. Et puis, on apporte dans des, on va dire, des grandes vasques, des espaces où on peut faire ce qu'on appelle les micro-potagers. Donc là, une fois de plus, pour essayer de compléter les services qu'il peut y avoir sur les résidences. Un autre sujet qui est extrêmement important, c'est les espaces extérieurs communs. Comment vous circulez entre votre logement et la rue? C'est souvent là qu'on rencontre son voisin, c'est là que les enfants peuvent jouer. Donc c'est aussi un point sur lequel on est en train d'essayer de faire évoluer les programmes dont vous parliez tout à l'heure. Et en se disant que peut-être qu'on ne peut pas se payer des surfaces à l'intérieur du logement beaucoup plus grandes, parce que notamment elles impactent le loyer. Par contre, on peut peut-être offrir des espaces à l'extérieur où on va plus partager, plus se rencontrer et permettre une vie sur la résidence qui sera un peu plus constructive. Je vous donne un autre exemple. On fait Est Métropole Habitat, le deuxième bailleur social de logement étudiant après le CROUS. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de construire quelque chose qui change sur ces résidences étudiantes. Où aujourd'hui, on construit des T1 qui sont de part et d'autre d'un couloir. L'étudiant arrive, il prend son ascenseur, il prend son couloir et il rentre dans son studio et il est tout seul. Donc là, pareil, on se dit qu'il faut qu'on travaille sur les espaces communs, qu'on travaille sur tous les espaces qu'on peut offrir pour que les gens se rencontrent, se croisent et créent autre chose qu'une relation, on va dire, stérile à son environnement. Là, je vous ai mis un autre sujet, pareil, qui n'est pas de nous, qui est aussi quelque chose qu'on va essayer de tenter, c'est de dire comment on intègre les stationnements et les vélos dans les résidences. Donc là, vous voyez, il est haut, les stationnements sont R+1, au-dessus des commerces. Donc ça, c'est des choses qui sont parfois nécessaires, quand la nappe phréatique est très haute, ça permet de faire des économies tout en gardant la qualité architecturale. Des jardins familiaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est quelque chose qu'on généralise quasiment dans tous nos projets. Donc là je reviens sur la sauce de nos boîtes à sardines. On se rend compte aujourd'hui que les promoteurs et les bailleurs sociaux, les promoteurs sont aussi force de proposition là-dessus, essayent d'apporter des services aux résidences. Donc ça va être une voiture électrique partagée, ça va être un système de gardiennage par internet, sur lequel vous n'avez plus un gardien ou une gardienne en bas de la résidence, mais vous avez un système qui passe par une mutualisation à l'échelle de plusieurs résidences gérées sur internet. Donc là, on se rend compte qu'il y a une multitude de services qui sont en train de se développer, gérés par Internet, gérés par des outils type tablette ou téléphone portable, et qui permettent de mieux gérer son logement, de mieux gérer l'accès, de mieux gérer des sujets comme l'énergie ou les demandes de services dont on a besoin auprès du bailleur social. Et j'ai terminé quelques images sur la boîte à sardines du futur. Donc là, c'est plus des clins d'œil. On voit que ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les espaces extérieurs, de dire plus la ville est dense, plus les espaces extérieurs doivent être généreux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les architectes nous interpellent tous les jours. Là encore, un autre exemple qui est quelque chose de totalement utopique, mais qui nous fait réfléchir sur ce qu'on peut mettre autour de nos immeubles. Là encore, un sujet qui l'est beaucoup moins, parce que ça, on est en train de travailler avec une structure lyonnaise qui s'appelle CAPSA pour développer du logement dans des structures préfabriquées. Ici, elles sont en métal, dans des conteneurs, mais on travaille aussi pour les faire en bois, pour répondre notamment à des situations d'urgence. Et je termine avec cette petite image qui est là un clin d'œil au rapport du GIEC qu'on a eu ces derniers temps, de dire que je ne sais pas ce que sera l'environnement de nos logements demain, mais c'est aussi cette capacité à s'adapter qui sera clé pour les bailleurs sociaux. Voilà.
Bon, je crois qu'en écoutant Alain et Gabriel, on n'est pas dans un monde figé, ni les questions ne sont figées, ni les tentatives de réponse ne sont figées. Et ça fait partie du problème d'ailleurs. C'est qu'en fait, on est loin d'être dans un monde rigide, mais on n'est pas non plus dans un monde très organisé pour que, j'allais dire, les choses avancent d'une manière autre que improvisée, un peu désordonnée. J'en dirai un mot pourquoi tout à l'heure. En fait, moi, je vais essayer de dire des choses simples parce que je suis élu. Et au fond, c'est une très mauvaise idée d'être élu pour gérer un truc comme ça. C'est que, dans mon sens, plutôt à éviter. Parce que le logement est quelque chose qui relève de compétences de collectivités différentes, l'État, les communes, les intercommunalités qui prennent un peu de puissance sur ce sujet, mais personne n'a toutes les billes en main pour, j'allais dire, faire un peu avancer les choses globalement. Et donc, ça fait partie de la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de grand Manitou qui pourrait dire « on va faire comme ci, on va faire comme ça ». On a des moyens limités et on ne peut pas obliger la plupart du temps sur un sujet qui est extrêmement sensible auprès des habitants, à la fois parce qu'ils sont dedans, mais enfin on a quand même la moitié des Français qui sont propriétaires et ils veulent des trucs différents, mais ils achètent des choses comme les autres, ils ont des pensées contradictoires comme vous les avez probablement, et moi aussi. Donc on est dans un monde qui est un peu schizophrène par rapport à sa capacité à accompagner l'acte et la parole dans le même sens. Autrement dit, celui qui voudrait vivre de manière très différente, il fait un cellier T1+, en centre-ville pour avoir de l'argent pour sa retraite, et c'est-à-dire qu'il fait un geste parfaitement contradictoire, mais et il nous traite de con. Nous, mais c'est en fait c'est lui qui l'est. Donc c'est ça la difficulté avec laquelle il faut fonctionner. Pour moi, il y a deux éléments qui sont les plus importants. D'abord, et qui font que d'ailleurs je m'intéresse personnellement à cette question-là, je viens de l'hébergement, donc j'ai une certaine idée, j'ai travaillé près de 25 ou 30 ans, et donc j'ai une certaine idée de à la fois ce qu'il faudrait, mais que ce qu'on est capable de faire en urgence. C'est les deux choses qui nous brident. La première, c'est que il y a une vraie crise du logement. dont quelles que soient les manières de l'analyser, quelle que soit la manière de réunir des questions autour de cette crise, c'est d'abord une crise de la quantité. On manque de logements. On manque de logements. On pourrait presque dire pourquoi, hein, mais on manque de logements, pas partout, mais on manque de logements là où il y en a besoin. C'est ça le problème. On manque pas de logements à Guéret. On manque de logements à Lyon. Mais le flux démographique, la vitalité démographique, elle est ici, elle n'est pas là-bas. J'ai rien contre Guéret, mais c'est comme ça. Donc on a cette crise quantitative, il faut absolument... on ne peut pas la contourner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose quand on a des responsabilités politiques que d'y répondre par le fait de produire des logements. Pour nous, c'est fabriquer 150 000 logements de plus dans cette agglomération, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour accueillir les ménages qui vont être fabriqués par vos pratiques sexuelles, parentales et tout, c'est-à-dire des enfants, des divorces et des ménages qui, étant réduits à la portion congrue, en fabriquent quand même deux ou trois à la sortie, et ça fait deux ou trois logements de plus à faire. Sur ces 150 000 logements, 75 000 d'entre eux ne seront dédiés qu'à démographie constante. Il n'y a pas une unité de plus, c'est juste votre activité, j'allais dire, de ménage, plus le reste que je ne préciserai pas, qui fait qu'on a déjà besoin de 75 000 logements de plus, sans faire venir une seule personne de plus dans l'agglomération. Et il va falloir en rajouter encore 75 000 parce qu'il y a des gens qui arrivent. Donc oui, la difficulté, hein, c'est que vous avez voté en mars, vous avez beaucoup voté, et beaucoup voté pour des communes qui ne veulent plus construire. Des programmes qui ne veulent plus faire grand-chose, qui n'ont plus très envie. Voilà. Donc juste, ça fait partie, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon ils seraient complètement contradictoires. Donc, forcément, et vous avez tous envie de construire pour résoudre cette crise du logement, et évidemment, vous ne voterez pas pour les gens qui ne vont pas construire. Sinon, on ne pourra pas mettre tout le monde sous un toit. Donc le premier point important, c'est cette crise. On ne peut la réduire, l'assouplir, l'amortir, qu'en construisant. Premier point. Deuxième point, qui nous rapproche un peu du sujet, ce qui est pour moi très fondamental, presque plus fondamental que tous les aspects sociologiques, et c'est affreux à dire, on va tous vivre 100 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir supporter pendant tout ce temps-là, et cette longue séquence vers laquelle nous tirons tous, va être vécu pas du tout comme auparavant. On va avoir des vies, de nombreuses vies, seules, à plusieurs, peut-être en famille nombreuse, puis ensuite seules, puis ensuite avec du fric, et quelquefois sans argent. Enfin, tout ça, ça va faire des séquences qui vont peut-être durer entre 5 et 10 ans la séquence. Pas plus. Ça fait quand même 10. Ça fait quand même 10 dans la vie de 100 ans. Et ces séquences-là, à chaque fois, il ne va pas falloir faire un T3, c'est-à-dire un couple, un appartement pour un couple avec deux enfants, sinon ça ne va pas marcher. Et on ne sait pas aujourd'hui véritablement s'adapter à ce nouveau rythme imposé par l'allongement de la durée de la vie et, j'allais dire, cette augmentation des séquences, cette augmentation des morceaux de vie dans lesquels vous pouvez les uns et les autres repérer pour vous-même ou pour vos proches à quel point ça va vite, et les enchaînements de ces séquences. Et ça va vite, c'est-à-dire que c'est très gourmand en demandes de plus en plus particulières, et c'est très gourmand en mobilité des gens qui passent, j'allais dire, d'un endroit dans un autre. Voilà. Et cet endroit, on l'appelle le logement. Et on s'aperçoit que plus on a voulu, j'allais dire, plus on voudrait dessiner des périmètres d'adaptation à des styles d'habitat différents, plus en même temps se pose la question d'un produit au fond qui serait suffisamment uniforme pour recueillir, j'allais dire, la diversité de ces demandes. Bon, faut-il tout adapter à... j'allais dire depuis les gens du voyage jusqu'à la femme battue, à des logements pour ceci ou pour cela. On a vu ce que donnait l'excès des normes, parce qu'après c'est tant dans chaque programme, tant dans chaque programme, tant dans chaque programme. Et après, tout le monde gueule en disant c'est énorme, c'est insupportable, on ne va pas quand même mettre 100% d'handicapés dans un immeuble de 12 étages, donc ce n'est pas la peine de nous imposer des normes sur les 12 étages. Oui, donc ça, ça fait partie, de cette espèce de schizophrénie du vouloir, qu'on fasse mieux, qu'on fasse plus adapté, mais qu'on fasse quand même, pour moi, qui est un besoin relativement ordinaire. Voilà. Donc, ça fait partie de ces difficultés, à mon avis, qui font que on a beaucoup de mal à réarticuler un certain nombre de notions. Par exemple, je pense que sur les typologies, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, on a des points de vue très contradictoires. On a besoin de plus en plus de petits logements, parce qu'on a, sur l'île de Lyon, 48% de ménages d'une seule personne. Paris, 55. Hein. Donc, on va pas faire le grand appartement d'Arrivaucourt, ça marche plus. Celui-là, il s'est transformé en colocation étudiante parce que ça rapporte 3 fois plus ou 4 fois plus que... Bon, pour le propriétaire, on n'a pas eu besoin de l'inciter, il a trouvé la solution tout seul. Hein. 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. Enfin, bon, voilà, donc ça fait un bon rapport. Sinon, c'est 1000 balles et il n'y a plus personne pour payer après. Donc, ces évolutions-là, sur les typologies, sont très paradoxales. Par exemple, nous avons besoin de faire de plus en plus de petits logements, mais nous avons besoin de faire de plus en plus de grands logements en cœur de ville, si nous voulons qu'il y ait des enfants en cœur de ville. Et il faut même faire plutôt du locatif. Pour faire du locatif grand logement en cœur de ville, ben, il faut soit des bailleurs sociaux qui le fassent, à qui on dit « faites de plus en plus de petits logements, mais en cœur de ville, c'était plutôt plus grand. Voilà. » Et donc, il ne faut pas se louper là-dessus. Sinon, on va territorialiser des profils sociologiques, des profils de ménage, et puis on va avoir des écoles vides à un endroit et des écoles saturées de l'autre, pour aller un peu vite en besogne. Donc, ces ajustements fins, ce sont des choses que, vous voyez, ce n'est pas de l'habitat, c'est évident ce que je vous dis, c'est tout. C'est juste bien faire le bon produit au bon endroit, sans parler de savoir si ce produit, il est très innovant en technologie, en innombrables aspects dont tu as parlé, Alain. Donc, déjà, cette complexité-là, de ne pas faire de faux gestes, de faire la quantité suffisante, de convaincre le décideur du permis de construire, en général le maire, qu'il faut le faire et qu'il n'aura pas que des couples avec deux enfants, qu'un étudiant ça fait pas que du bruit, hein, et que un foyer à Ralis c'est pas que 100% de Rome qui chaparde à la sortie. Voilà. Donc ça c'est déjà pas évident du tout, et par conséquent, si vous voulez, je pense que l'enjeu qui revient à cette question de construire à tout prix, malgré toutes ces résistances, construire beaucoup, malgré toutes ces résistances, et construire le bon produit dans un univers de gens qui vont vivre 100 ans et qui viennent tous les 6 ans nous réclamer un autre truc, c'est ça la difficulté à laquelle il faut faire face. Et donc, moi, je me posais la question en venant, ayant eu une petite expérience sur le produit unique dont l'efficacité, j'allais dire, dont la technologie est totalement obsolète et qui cependant a été extrêmement bien marché et qui a correspondu justement à ce que dans l'urgence on ne sait pas faire. Le foyer Sonacotra, le foyer Aralis, qui est sa chambre de 9 mètres carrés avec un lit à une place, un lavabo, pas de chiottes, tout ça c'est commun, la douche c'est commun, la cuisine c'est commun. T'as ce truc inventé en 1955, obsolète, a permis dans l'urgence aujourd'hui de donner les meilleurs effets. C'est-à-dire qu'en fait on a ressuscité ce produit parce que quand il a fallu gérer, par exemple, le pont aérien d'évacuation du Kosovo, 6000 personnes qui arrivaient là-dedans, ben, une famille, 1, on mettait une chambre, 6, on mettait 6 chambres, et 3, on mettait 3 chambres. C'est-à-dire qu'on avait un produit totalement modulable, et si on avait cherché ça dans un immeuble, on ne trouvait pas. On ne trouvait nulle part la possibilité d'ajuster le tir, parce que les gens, ils ne nous arrivaient pas en deux papas, papa, maman et deux enfants. Ils arrivaient dans un désordre inouï. Donc on a pu, avec un vieux produit totalement obsolète, mal foutu, qui d'ailleurs n'accepte même pas un lit à deux places, sinon il faut marcher sur le lit pour aller ouvrir la fenêtre, on a trouvé un... Eh bien, ce truc-là, on n'a pas su le réinventer à l'heure qu'il est. Et le seul produit de substitution qu'on ait à celui-là, pour gérer par exemple des urgences, hein, c'est l'hôtel. C'est le seul. Alors voilà, une chambre d'hôtel, une personne, deux chambres d'hôtel, deux personnes, et ça recommence, et voilà. Et ça, on sait faire. On sait combien ça coûte. 18 euros, c'est sur marché public maintenant, donc c'est pas très cher au bout du compte. Mais on ne sait pas faire ce genre d'adaptation. Je donnais cet exemple simplement pour dire que dans cet effort que l'on a à faire pour dépasser la crise, qui est un effort de la quantité et un effort de la conviction, c'est-à-dire persuader tous ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine de faire et d'essayer de lever toutes les résistances à le faire, résistance à ceux qui ne veulent pas de grues, qui ne veulent pas densifier, qui ne comprennent pas que si on ne densifie pas, ben on va s'étaler à 100 km, qui veulent garder un peu d'espace vert en centre-ville. Ben, de toute façon, c'est une équation qui est assez simple. Si on veut avoir 50% d'espace vert, si on veut construire 150 000 logements, on compresse et ça monte. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous prenez votre bagnole et vous allez à 100 km. Et tous les 6 ans, vous aurez les enfants qui se casseront en disant « ça commence, c'est pas marrant la campagne ». Bon, voilà, pour faire vite. Donc, ces questions-là, elles sont archi simples, et cependant, on est dans un secteur, le logement, au fond, où les gens, moi je me bats toujours pour expliquer que même l'emploi, d'une certaine manière, vu de mon point de vue, je m'en fous. Parce que l'emploi, on en a ou on n'en a pas, de toute façon, il y a 2/5 de la population, sinon 3, qui ne vit pas à ce rythme-là, soit parce qu'ils sont âgés et retraités, soit parce qu'ils sont encore jeunes, soit parce qu'ils sont au chômage, vous additionnez le tout, ça fait pas une grosse minorité, ça fait quand même pas loin beaucoup de monde. Et cependant, pendant ce temps, tous les gens, tous les soirs, il faut les mettre dans une boîte, pour reprendre l'expression qui d'ailleurs, je crois bien que c'est moi qui l'ai donnée.
On lui en parle.
Il faut faire des boîtes, il faut mettre les gens dedans, pour qu'ils se mettent dedans. Il faut mieux faire des bonnes boîtes que des moches boîtes, mais en attendant, il faut les mettre tous les soirs. Voilà. Et ceci n'est pas simple, ceci est très nécessaire, et il faut absolument qu'on trouve le rythme qui nous permettrait d'aller intelligemment vers la solution de ce problème. Donc, je pense que la bataille qui se joue, c'est comment y arriver. La quantité pose la question du prix et de l'argent. Voilà. Donc la question de celui qui exerce une responsabilité, ça va être de savoir comment, par exemple pour le Grand Lyon, on a un budget 90 millions d'euros, hein, qui était à 10 millions il n'y a pas longtemps, mais pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à produire ces 7 à 10 000 logements par an. Et bien tout ça, ça consiste à se prendre la tête pour voir où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on peut élever, quelles règles on peut assouplir, comment on peut dissocier la nue propriété de l'usage, vendre que de l'usage, donc truquer avec le prix pour trouver des solutions, faire de la VFA, parce que avec les promoteurs, ils nous la font à 2400 euros du mètre carré, entre Écully et Dardilly, Dessines, Givors, Neuville, c'est le même prix, donc on règle la question foncière, au passage, on a un même prix, au moins on a une économie qui est à peu près praticable, et on peut donc sortir ces 4000 logements sociaux par an, mais en rusant pas avec des choses inadmissibles, en rusant avec le fait que le foncier a de la valeur, et comme c'est les Français qui sont propriétaires du foncier, ben ils veulent pas, évidemment, se faire spolier au passage. Par conséquent, c'est en mettant en place, j'allais dire, par des règles qui sont des ruses, du système, par des obligations, par quelques contraintes, par une envie de faire, parce que si on n'emballe pas les 59 communes, les 59 maires, leurs conseils municipaux à y aller, eh ben on fera jamais tous ces logements. Et dans cela, il y a des gens de partis politiques différents qui ont plus ou moins envie et qui ont des discours là-dessus. Pour finir, je dirais que ce qui est probablement un élément aggravant en France de cette question de la crise du logement, c'est le fait que ce n'est pas un dossier principal dans les politiques nationales. Voilà. C'est un dossier qui est négligé. Je crois que l'habitat et le logement n'a pratiquement pas été débattu dans aucune des primaires des élections présidentielles précédentes, mais celle de 2008, ça a été absolument pareil. Le sujet logement est mis dans l'actualité par la Fondation Abbé Pierre, par des organisations, mais il n'est pas mis tellement par d'autres méthodes, en tous les cas il n'est pas publicisé. Et puis les politiques croient que c'est la recommandation de la Abbé Pierre qu'il faut appliquer, c'est en général catastrophique, pour faire du flot. Donc le résultat des opérations, c'est qu'il y a on fait plein, c'est-à-dire qu'on s'en occupe pas, et puis subitement on amène des mesures qui changent tout le temps, qui font que un système qui demande surtout de la ténacité, du temps long, de l'investissement, des prêts bancaires, enfin des trucs où il faut y voir clair sur 15 ou 20 ans, sinon plus, obéit à des va-et-vient de décisions, d'objectifs et sont totalement illisibles, pour dire la vérité, même pour un vice-président du Grand Lyon, la plupart du temps incompréhensibles, de les tenir tous, parce que ça change tout le temps et qu'on mélange en permanence la crise du logement et la crise du BTP. Le BTP, c'est de l'emploi. L'emploi, c'est important. Le logement, on verra après, c'est une, en quelque sorte une subsidiarité qui fait que c'est un peu comme les parents qui disent que t'iras à la piscine quand tu seras à nager. Le logement, c'est un peu ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je pourrais dire d'autres choses, mais c'est en vrac ce que... en essayant de ne pas se répéter trop derrière vous deux.
Peut-être du coup, merci à tous trois. Peut-être que la salle voudrait réagir.
Je voudrais me demander à M. Brachet qu'il explicite un peu, si c'est possible, ce qu'il a, l'allusion qu'il a faite sur la loi du flot et l'application de ce que dit la Fondation Abbé Pierre. Voilà,
merci sur madame.
Non mais je savais que c'était toujours difficile de lancer le débat. Et en faisant cette allusion tout à fait à la fin, j'étais sûr que quelqu'un s'emparerait du micro pour dire quelque chose. Oui, je dirais que, d'abord il y a dans les choses qu'a fait Duflo, des choses dans sa loi qui est assez complexe et, ambitieuse. Il y a des choses valables, en particulier en matière d'urbanisme, etc. Mais ce qui, évidemment, a fait défaut, d'abord, est illustré par les chiffres. On ne peut pas se faire élire, aller dans un gouvernement, promettre 500 000 logements, et puis arriver à un niveau plus bas que ce qu'a laissé le prédécesseur de droite. Donc il y a là, manifestement, un échec, dont certains voudraient dire que c'est la crise, mais c'est pas la vérité, parce qu'elle était entamée avant, et c'est un échec, quoi. On peut dire qu'on s'y est mal pris, pourquoi je veux bien me mettre dedans, mais on s'y est mal pris parce que ce secteur du logement, ce secteur de l'activité économique, est un secteur qui a besoin de consensus, qui a besoin de confiance, et qui a besoin d'investissement. Vous ne faites pas prendre à quelqu'un une décision de mettre 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros dans de l'immobilier si il a l'impression d'être un salopard de propriétaire qui ne pourra rien faire, qui ne pourra pas louer, etc. Donc tout ça a créé un climat dont moi je peux vous dire que par exemple, ne serait-ce que pour créer l'Observatoire des loyers à Lyon, l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui doivent nous apporter les loyers pour nourrir la base de données, se sont mis quasiment en grève de les transmettre. Et là, vous ne pouvez pas faire les choses les uns contre les autres. Voilà. C'est, je crois, moi personnellement, la leçon du mandat précédent. Si on a réussi à faire 7 à 10 000 logements, c'est parce que de Neuville à Givors, de Dardilly à Décines, de droite et de gauche, et je pourrais expliquer pourquoi, c'est pas le génie de Colomb, c'est l'histoire du renouvellement urbain, de la crise des banlieues, c'est une histoire locale qui a permis ce consensus, de produits. Mais c'est un consensus, c'est-à-dire que ce soit la promotion immobilière, que ce soit les investisseurs, que ce soit le monde HLM, où beaucoup de bailleurs sont venus de l'extérieur de Lyon renforcer la capacité à produire. 32 bailleurs à Lyon, c'est considérable. Hein. Alors on aurait pu le faire avec nos offices publics, point barre, hein, des petits monopoles. Non, on a ouvert les fenêtres et on a donné des gages à ceux qui voulaient travailler là-dessus pour le faire. La loi du flot, elle a opposé les uns contre les autres. Résultat des opérations, elle a cassé la baraque, la mécanique. Voilà. Alors, c'est mon avis, je pourrais développer un peu plus, mais si vous voulez, je crois que on ne peut pas aller vers la réduction de cette crise où il faut produire, produire et produire pour rattraper 30 ans de retard, hein, et je ne vous fais pas la courbe pour vous dire quand c'est le plus bas, ces 30 dernières années, parce que c'est pas bon pour ceux pour quoi on vote tous là, hein. Eh oui, c'est justement un peu déconné, hein. Mais c'est 30 ans de retard accumulé. Ça fait 800 000 logements qui manquent. Voilà. Si on veut les rattraper, et si on veut aller produire les logements que votre démographie, notre démographie exige, eh bien nous devons produire beaucoup, nous ne produirons pas beaucoup si nous ne nourrissons pas un très fort consensus là-dessus, et un consensus qui emporte quoi ? L'argent privé pour s'investir là-dedans, parce que l'argent public, il n'y en a pas. C'est ça.
Peut-être quand même. Il fait exprès. Il fait exprès. Non, peut-être quand même, madame, rappeler, je vais mettre un petit peu des bémols parce que c'est aussi le jeu, hein. Peut-être rappeler quand même que la loi du flot, elle a quand même, au-delà de ces aspects-là, Il y a effectivement encore un problème de déficit très fort sur les dimensions fiscales, parce qu'il y a un problème sur les aspects fiscaux, il n'y a pas de politique réelle qui permette vraiment d'avancer là-dessus. Enfin, c'est une loi qui, quand même, n'a pas été fabriquée par la Fondation Abbé Pierre, non plus. Mais au-delà de ça, c'est quand même une loi qui permettait de renforcer la protection des locataires, et à un moment où, quand même, on est dans une situation extrêmement tendue avec des locataires qui doivent arbitrer entre des dépenses de santé et payer le loyer, avec des copropriétés très en difficulté et des ménages, y compris qui peuvent être des propriétaires et qui sont dans des bâtis qui se dégradent. Elle a effectivement mis beaucoup d'accent sur comment est-ce qu'on peut essayer de travailler à l'encadrement des prix, donc en gros intervenir sur le marché, comment est-ce qu'on peut permettre dans la relation de rééquilibrer les rapports tels que l'avait fait la loi Besson précédemment. Après, effectivement, il y a un problème d'équilibre sur la dimension de construction où là c'est pas suffisamment fort, mais bon, voilà, c'est quand même pour lui redonner, c'est pas spécialement pour rentrer dans des débats politiques, mais ça me paraissait important de le rappeler. Tu arrêtes maintenant.
Non, mais on acceptera que tout n'est pas mauvais. Moi, j'ai vraiment pas compris quels étaient les freins. Hein, c'est-à-dire qu'on m'explique que c'est la crise. Bon, la crise, elle a quelques années, donc ça fait plus de 30 ans, donc je me dis, c'est pas la crise. Enfin, ça ne peut qu'accentuer quelque chose. Et moi, j'aimerais qu'on me dise, est-ce qu'on doit passer par ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un problème de défiscalisation et d'inciter réellement l'argent privé à s'investir dans le logement en le sécurisant. Il me semble qu'on a eu dans le passé quelques expériences qui n'étaient pas totalement négatives, bon, sauf peut-être sur des implantations, des choses comme ça. On a quelques propriétés qui ont été construites à des endroits où maintenant les gens sont en train de se désespérer pour louer, mais bon... voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire quelles sont les pistes à creuser, parce que là on se rend compte qu'on a opposé les acteurs dans la société, et ça c'est jamais bon.
Non mais je veux pas, il faut qu'on traite de sujet, j'ai caricaturé un certain nombre de choses, c'est justement pour, parce qu'à un moment donné il faut faire des choix, et bien entendu il y a des choses positives, etc. Je pense que l'encadrement des loyers, pour faire vite, c'est foutu pour 20 ans. Et c'est le principal résultat. Moi, je n'étais pas tout à fait le fait qu'on ait des loyers encadrés dans leur accompagnement sur la moyenne période. Mais je pense que là, c'est foutu, la manière dont on va plus entendre parler pendant 20 ans, d'autant que par ailleurs, etc., ils sont déjà assez encadrés à l'intérieur du bail et même un peu à la relocation, puisqu'ils sont encadrés par des arrêtés préfectoraux maintenant. Donc, ce que je peux essayer de vous répondre, c'est qu'on est, quand même dans un système international où il y a eu une bulle immobilière, un excès de liquidités, qui ne savaient pas où aller chercher leurs produits avec des fonds de pension et tout ce qu'on veut. On a donc créé, j'allais dire, cet emballement spéculatif sur la valeur patrimoniale de l'immobilier. Les gens sont venus, les institutionnels sont venus, les fonds de pension sont venus, ils ont investi dans l'immobilier parce qu'ils ne savaient pas où trouver du fric rentable avec une rentabilité suffisante, ils ont ramassé la plus-value et c'est fini. C'est qu'on est en fin de cycle. Aujourd'hui, les institutionnels n'investissent plus dans l'immobilier. Et si vous demandez aux assureurs, à la Maif, aux mutuelles, etc., de venir investir dans l'immobilier, ils disent c'est soit 4-5% net, soit on ne vient pas. Donc, vous voyez que ce marché qui a été spéculativement extrêmement rentable, où les prix ont augmenté, la Fondation le dit, hein, un rapport de 1 à 10 sur l'achat, de 1 à 5 sur la location, pendant que les revenus n'augmentaient que de 20%, ça, la Fondation l'a très bien dit. C'est un épisode dont il semble bien aujourd'hui que ce soit fini, parce que la plus-value a été ramassée et quelque part elle ne se ramasse qu'une fois. Si elle devait se ramasser une deuxième fois, eh ben on verrait tout de suite les institutionnels, les fonds de pension revenir sur ce terrain-là. Alors je ne dis pas qu'ils sont totalement absents, mais enfin quand même, aujourd'hui, on voit Gecina qui a vendu 30 barres immobilières à Lyon, c'est pas rien. Hein. Voilà, donc ils réalisent leur plus-value et ils partent investir dans les bureaux ou dans d'autres domaines. Voilà, la tentative de réponse que je veux faire, c'est que, à mon sens, l'erreur serait de confondre la décennie qu'on vient de vivre avec la décennie qui va venir, mais je ne suis pas non plus capable de lire dans la bulle exactement ce qui va se passer. Par contre, les efforts à fournir et les objectifs à rechercher sont toujours les mêmes, et avec cette particularité très importante, c'est qu'on a voulu, dans ces 500 000 logements, faire 150 000 logements sociaux, et qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc vous voyez que le rapport à la production de la part publique, hein, eh ben, il cale à 110 000 cette année, hein, c'est-à-dire ce qu'a laissé apparu le ministre du Logement de Sarkozy juste avant. Donc, ni plus ni moins, peut-être moins, d'ailleurs, parce que je crois que 2012-2011 était plus élevé. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. Si on veut faire les 350 000 qui manquent, ça sera avec de l'argent privé. Et donc, des incitations, ou des gens qui veulent donner leur argent et n'avoir rien en contrepartie. Mais ça, il nous casse pour le faire.
Oui, je voulais rappeler un fait, peut-être je vais résumer grossièrement, un fait que tout le monde connaît, je voulais avoir votre avis. L'an dernier, dans le premier arrondissement, une manifestation a lieu devant des logements inoccupés à la Croix-Rousse pour tirer la sonnette d'alarme. La réponse a été la mise en garde à vue de la maire du premier arrondissement qui accompagnait la manifestation, qui est ensuite sanctionnée par la mairie centrale. Elle se présente contre Gérard Collomb, alliée au Front de Gauche et à une association locale. Elle a plus de voix que lorsqu'elle était sur les listes de Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous en pensez?
Plein de choses, mais je ne vais pas prendre la parole. C'est un peu hors sujet.
C'est un peu hors sujet, vous.
La manifestation en question, c'était devant le lycée Truffaut, c'était pas des logements.
Exactement.
Déjà, ça fait une petite différence.
Peut-être les étoiles.
Moi, je laisse un peu le débat diriger. Mais... Je ne veux pas qu'on rentre dans des considérations de ce niveau-là. Pour moi, c'est, si vous voulez, la difficulté de ces questions de personnes à la rue, vous le savez, d'ailleurs, je viens de ce monde-là, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes éligibilités au logement du fait des circulations internationales. Par conséquent, si vous êtes un Rome à Lyon, vous n'êtes pas quelqu'un qui est éligible au logement social comme ça. C'est vrai pour un Belge, c'est vrai pour un Danois, c'est vrai pour un Allemand, c'est vrai, qui plus est, pour un Grec, un Portugais, qui, s'il savait que c'était possible, viendrait tout de suite ici, ni au RMI, ni à l'APL, ni au logement social. Or, ce genre de geste qui a été fait à Truffaut, avec derrière des populations qui ne sont pas éligibles pour des raisons que de leur durée de séjour en France, de l'ouverture, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, ou qui sont déboutés de l'asile, ou qui sont sans papier, ne peuvent pas, j'allais dire, rentrer dans le processus d'éligibilité parce que à ce moment-là, il faudrait les faire passer devant ou d'à côté des 48 000 demandeurs de logements sociaux et de tout ouvrir des droits sociaux que la France ne va pas ouvrir, sinon les Grecs au chômage ou les Espagnols au chômage ou les Portugais vont venir évidemment demander ici l'APL, le RSA et compagnie. Donc il y a des barrières à un accès immédiat aux droits sociaux. Or, ce genre de manifestation, sous prétexte d'habiller humanitairement, à part des valeurs qu'on peut très bien partager et défendre, laisse à croire que tel est le cas. Eh bien, ce n'est pas le cas, et je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, pas plus en Allemagne qu'en France qu'ailleurs, vous ne pouvez ouvrir les droits sociaux instantanément. Il faut d'abord que vous, entre parenthèses, les gagnez, comme vous gagnez le chômage en travaillant avant pour ouvrir vos droits aux assédiques. Eh bien, c'est exactement pareil, la mécanique pour ceux qui viennent d'ailleurs. Pour ouvrir les droits, il faut d'abord se prendre en charge et cotiser. En gros, pour simplifier beaucoup. Donc c'est pour ça que cette opération là-bas, la vision qui consiste à traduire l'urgence en opération humanitaire est une opération qui trompe un peu sur les éléments de référence qui sont ceux des droits. Or, on est dans un univers de droits et vous savez que là, aujourd'hui, c'est pas la tendance n'est pas à les ouvrir largement parce qu'il n'y a pas d'argent.
Peut-être Olivier, parce que du coup, je ne sais pas comment on est passé de la vacance au Rhum, d'un coup là, je ne mesure pas tout à fait le passage. Peut-être
il y avait les deux, je n'ai pas répondu sur la vacance.
Mais peut-être que du coup, ça vaudrait le coup d'expliquer une question qui est souvent dans les têtes des gens, qui peut être quelquefois une idée préconçue ou quelquefois une idée reçue, mais quelquefois
la réponse est simple. Sur la vacance, la réponse est simple.
Et ben voilà, peut-être que du coup tu peux essayer de donner à voir un petit peu le travail.
On fait partie des rares villes qui ont expérimenté la taxation sur la vacance avant les autres, et elle est mise en place. Aujourd'hui, ça a permis de réduire à peu près de 10 000 logements vides, c'est-à-dire remis sur le marché, et on considère qu'on est à un taquet bas, que la vacance qui reste, je parle vacances logement, hein, je parle pas des bureaux et trucs comme ça, etc. Vacances logement qui reste est une vacance incompressible. Soit d'héritage, d'indivisibilité, d'insalubrité, d'indignité, etc. On a un parc de logements qui est de l'ordre de 650 000, 640 000 résidences principales, et on a une vacance qui est tombée, je crois, de 40 et quelques mille à un peu moins de 30 000, et aujourd'hui, on ne sait pas aller en dessous parce que c'est comme le... C'est un peu comme dans l'emploi, en dessous, on n'arrive pas à trouver les propriétaires, on tombe chez les notaires ou on compte des compteurs d'eau qui, on ne sait pas faire en fait en dessous. Voilà. Mais on est dans une ville qui a une faible vacance de logement. Et la taxation a eu un effet de 10 000 à peu près. Mais vous avez vu que sur les résidences secondaires, il y a un projet de loi là, parce qu'il y a des résidences secondaires, la loi de finances, là c'est l'actualité du jour, qui viserait à augmenter de 20% la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Or à Lyon, il y a des résidences secondaires, alors qu'en pensez-vous? Si vous avez un appartement à Paris pour le petit qui n'est pas occupé, c'est une résidence secondaire, elle va prendre 20% de taxe d'habitation. Hein.
Oui, bonsoir. Moi j'habite une commune plutôt privilégiée. Et c'est vrai qu'en mon temps, j'avais défendu l'idée d'un petit immeuble de logements sociaux en face de chez moi. Alors je m'en mords un peu les doigts parfois pour des raisons qui sont tout à fait subalternes par rapport au fait que c'est vrai que pour certaines personnes, le vivre ensemble, ça va pas de soi. Cette année, le ramadan, c'était au mois de juillet. Et c'est vrai que j'avais des voisins là, de confession musulmane qui n'étaient pas très respectueux, on va dire, du fait que à partir d'une certaine heure, appeler le bled à voix haute, toute fenêtre ouverte, c'était quand même un peu désagréable. Alors il a fallu que j'aille les voir, alors ça s'est bien passé. Mais il y a aussi le problème effectivement des parkings. Hein. Malheureusement, les garages ne sont pas utilisés selon leur destination. Et on a des problèmes de saturation du stationnement qui parfois peuvent rendre vraiment les rapports de voisinage extrêmement détestables. Alors moi, j'essaye d'être au-dessus de ça, hein, y a aucun souci. Mais bon, des fois, c'est pas évident. Et finalement, on se retrouve toujours dans une situation où ceux qui peuvent échapper à la cohabitation avec autrui, parce qu'ils en ont les moyens, Ils le font. Tony Garnier n'habitait pas dans une unité d'habitation, il habitait à Saint-Rambert, à la Sauvagère, dans une chouette baraque avec vue sur la Saône et jardin. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même une véritable ambiguïté. Et s'il fallait redéfendre ce petit immeuble de logement social, je le ferais. Mais c'est vrai qu'il y a des jours quand même où c'est pas évident à vivre, hein, et tout le monde n'est pas disposé à faire ça. Je voulais aussi dire que dans ces communes privilégiées, il y a vraiment quelque chose que je trouve absolument scandaleux, c'est que les rares terrains qui restent urbanisables partent sous forme de pavillons pour riches, qui sont vraiment des constructions qui en plus sont moches très souvent parce que il y a une nouvelle tendance à vouloir faire des cubes que moi personnellement je trouve pas ça terrible. Sur les croquis d'architectes on vous met toujours des arbres qui ont 25 ans, c'est magnifique, sauf que pendant très longtemps vous avez des haies en plastique, des pseudo haies, vous avez des tuyas, il devrait y avoir une taxe sur les tuyas, moi je trouve ça détestable les tuyas. Et vraiment, je comprends pas que dans ce contexte de pénurie foncière, on a encore des permis de construire qui sont accordés sur des parcelles de 4 500 m² dans les Monts d'Or. Parce qu'effectivement, celui qui a le fric, il peut prendre 4 500 m² et c'est un petit peu comme le noyer, hein, qui est un arbre extrêmement puissant, et il produit dans le sol une espèce de substance qui va tuer la concurrence. Voilà, et ceux qui ont du fric aujourd'hui peuvent tout à fait prendre un hectare. Pour eux, quoi. Rien ne les en empêche. Et c'est vrai que la propriété étant un droit constitutionnel et sacré, on n'a pas vraiment de solution pour ça, quoi. Et ça, personnellement, je trouve ça très triste parce qu'en plus, moi qui apprécie quand même le côté lien social qu'il peut y avoir dans des communes qui étaient quand même des villages à la base, aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien social. Moi, j'habite donc une commune des Monts d'Or et vraiment, il n'y a aucun lien social dans cette commune. C'est chacun chez soi. Et à tel point qu'on en arrive à une situation où la convivialité du lieu n'est plus assurée, quoi. Enfin, tout ça, c'est des questions sur lesquelles j'ai pas de réponse. Mais la cohabitation avec autrui, enfin, dans un système où il y a quand même de l'individualisme, où le fait de faire attention aux autres, c'est pas forcément la chose que les gens ont comme souci, c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi-même, je fais mon mea culpa, je me rends compte que la cohabitation avec autrui, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, quand j'ai vécu en colocation. C'est vrai que c'est très, très... J'ai même une expérience de vie communautaire. Là, j'ai beaucoup appris. Mais on dirait que dans l'éducation aujourd'hui, on n'est pas vraiment éduqué à faire attention aux autres. Et puis aussi, des fois, à prendre sur soi certaines choses. Moi, je me suis rendu compte qu'à certains moments de cohabitation, y a des moments où vraiment ça m'ennuyait. Mais j'ai aussi pensé aux aspects positifs de cette cohabitation et du coup je suis passé par-dessus cette contrariété. Mais on est aussi dans un système où effectivement quelqu'un qui vous pourrit la vie par du tapage ou par un certain comportement, les recours qu'on a juridiquement contre ces personnes ne fonctionnent pas bien. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a lieu de réagir, je voudrais juste apporter 2-3 éléments d'éclairage en tant que bailleur social. Globalement, sur tous les parkings dont on est propriétaire, on en coûte 70%. C'est-à-dire que déjà, tous ceux qu'on construit nous coûtent en gros 14 000 euros la place quand elle est enterrée, et on n'en loue que 70%. Il y a 30% de ces parkings qui sont vides, même si on les loue entre 25 et 35 euros la place par mois, alors que pour les rentabiliser, il faudrait les louer entre 55 et 70. Donc déjà, ça c'est un premier élément. La suroccupation dont on parle sur l'espace public, des places de stationnement liées parfois au logement social, je pense qu'elle est, en gros, pour nous, l'occupation, le taux de motorisation de nos ménages est autour de 0,85%, et vous voyez qu'on a 0,70% de nos places qui sont occupées. Donc on a un peu de stationnement en surface, mais normalement c'est pas un sujet. Par contre, on constate que beaucoup de personnes, si elles peuvent, elles se garent en surface par facilité, qu'elles utilisent leur garage comme un grenier, donc ça réinterpelle le cellier dont on a parlé tout à l'heure, ou que certaines, tout simplement, elles n'ont pas les moyens de se payer cette place. Après, je voudrais réagir sur un deuxième sujet. Vous avez parlé d'un petit immeuble de logements sociaux. Nous, on a quelques petits grands ensembles dans lesquels on a 2500 logements sociaux, les uns à côté des autres. Et je suis convaincu qu'il vaut mieux continuer de faire des petits immeubles de logements sociaux par-ci par-là que de refaire des grands ensembles. Donc ça, c'est sûr que la mixité sociale, derrière, elle se découvre peut-être, d'une certaine manière, dans d'autres lieux, mais moi, je vois juste que ce que vous évoquez n'est pas facile, mais c'est une réalité qui existe d'une manière encore plus radicale dans d'autres lieux et qui est encore plus compliquée à gérer quand il y a un volume de logement qui est trop important. On parle de ghetto, hein, tout simplement. Donc ça, l'ANRU, l'Agence de la Rénovation Urbaine, a beaucoup fait pour les faire évoluer. Mais je peux juste vous assurer que nous, on gère beaucoup mieux des résidences entre 30 et 70 logements qui sont disséminés, que quand tout d'un coup on se retrouve propriétaire dans les grands ensembles d'espaces verts colossaux qui ne sont pas payés par les impôts, qui sont payés par les charges de nos locataires. Donc là vous voyez, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que quand vous êtes propriétaire d'un immeuble classique, par vos impôts vous payez l'entretien des espaces publics. Quand vous êtes propriétaire d'un logement social dans un grand ensemble, vous payez l'entretien des espaces verts dans vos charges et en plus, accessoirement, vous pouvez payer des impôts. Voilà, donc je voulais juste réagir sur ces deux sujets, les parkings et les ghettos.
Moi peut-être aussi juste une remarque, parce que je pense que la question que vous évoquiez du découpage du territoire et ce territoire approprié en grande partie par la maison individuelle, pour faire simple aussi, c'est pas le privilège des communes de l'Ouest lyonnais. Il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui accueillent des populations relativement peu aisées et qui continuent de construire, de programmer des lotissements de 400, 500, 700 lots sur des parcelles de 400 mètres carrés dont on sait que probablement à l'avenir, les problématiques de cohabitation accentuées par le phénomène de la propriété, finalement, qui est aussi un paramètre extrêmement important, ne vont pas forcément améliorer, on va dire, la vocation sociale de ces espaces-là. Donc, je pense que la question que vous posez, elle est aussi, est-ce que la propriété individuelle, qui reste encore aujourd'hui en tout cas, les statistiques qu'on en a schématiquement, la demande rêvée du français moyen, hein, avoir sa petite maison sur sa petite parcelle, continue de poser questions et peut conduire certains, effectivement, à chercher, Olivier le disait tout à l'heure, à habiter à 70 km de tout service sous prétexte qu'on veut avoir sa maison et sa propriété privée. Donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est un véritable enjeu, parce que non seulement sur les questions de mixité, ça a été évoqué, mais aussi sur les questions de développement durable des territoires, parce que c'est un sujet extrêmement important, la dimension sociale dans la logique de développement durable. Et que donc cette question de la mixité, elle est extrêmement complexe aussi à gérer. On n'a peut-être pas suffisamment parlé, mais il y a plein de tentatives qui ont été faites. Est-ce qu'on fait de la mixité par immeuble? Est-ce qu'on fait de la mixité par cage d'escalier? Est-ce qu'on fait de la mixité comme ci ou comme ça? C'est extrêmement complexe, parce qu'il y a des problématiques de gestion, il y a des problématiques ne serait-ce que de dynamique économique aussi. Quand vous avez, je prends un exemple caricatural, sur le secteur Confluence, des logements à 6000 euros du mètre carré, et qu'à côté, des personnes qui ont des logements aussi bien, enfin pratiquement, ne payent que des loyers accessibles au logement social, il y a des choses qui ne fonctionnent pas non plus sur le plan économique, parce que culturellement, je pense que cette mixité, elle n'est pas vécue. Vous trouvez encore des investisseurs économiques importants, notamment dans le domaine du tertiaire, j'en ai croisé, qui vous disent, si vous voulez faire venir un siège social d'entreprise, il faut qu'on soit pas à moins de 500 mètres, hein, il faut qu'on soit bien au-delà des 500 mètres d'un ensemble de logements sociaux. Sinon, l'investisseur ne viendra pas et on ne mettra pas son siège social à cette chose-là. Donc les dynamiques, Olivier le disait tout à l'heure, les rapports entre la politique publique et les dynamiques privées sont extrêmement complexes à gérer. On peut légiférer, évidemment, mais ça ne fonctionne pas toujours non plus.
Ouais. Forcément, mais par exemple, je vois toute la banlieue, moi j'ai travaillé beaucoup en banlieue parisienne, il y avait des villes qui logeaient tout le monde et des villes qui faisaient des entreprises. Mais qui est-ce qui avait les charges d'un côté avec les problèmes et puis les autres qui avaient les rentabilités? Mais personne ne proposait de payer une partie du logement social qu'il y avait dans la ville d'à côté, alors c'était personnel. On est bien d'accord. Et par contre, il y a deux choses que je voulais dire. C'est que j'ai quand même apprécié la seule dame élue qui se soit franchement mouillée, enfin il y en a d'autres quand même, mais ouvertement par rapport aux gens roms et mal logés, enfin bref, etc. J'ai quand même apprécié, j'ai dit, pour moi, c'est une femme qui avait des couilles, voilà. Mais c'est...
La pauvre.
Mais moi je trouve que, je ne sais pas tous les ressortissants de tout, mais j'ai trouvé que pour une fois que quelqu'un se mouille ouvertement par rapport à ce problème de regarder une catégorie de population comme étant indésirable, c'est comme ça qu'on s'autorise, même par exemple le monsieur disait, là les gens commencent à se dire, ceux-là ils sont dérangeants, mais pourquoi c'est pas nous qui sommes dérangeants par rapport à eux? Et donc c'est ce côté-là. Et il y a aussi une chose que je trouve, c'est que la plupart des gens, moi je connais des gens qui sont en difficulté financière parce qu'ils ont un grand logement mais qu'ils n'ont pas les moyens de changer, parce que changer de logement ça coûte cher, en avoir un c'est encore plus dur, mais par exemple il y a des gens qui ont des 5 pièces qui sont tout seuls parce qu'ils ont une famille nombreuse, et par contre il y a d'autres gens qui sont en surcharge dans un petit 2 pièces avec une famille nombreuse. Et donc, comment arriver à arranger que ces personnes, que ça les arrangerait bien d'un côté et de l'autre, et les moyens de faire l'échange, parce que précisément, elles ne demanderaient que ça, mais elles n'en ont pas les moyens, ni l'une ni l'autre, voilà. Pardon, excusez-moi, je m'emballe très vite.
Je ne voulais pas forcément réagir à votre question, mais aborder un sujet que vous avez abordé en parlant des fonds d'or, qui est le prix du foncier. Je vais parler là pour ma paroisse, le logement social. On est souvent en concurrence avec les promoteurs. Et dans les monts d'or, le prix du foncier tourne autour de 800 à 1000 euros par mètre carré de surface de plancher, quand un bailleur social est capable de l'acheter entre 250 et 350 euros par mètre carré de surface de plancher. Donc la logique d'enchère ou d'attente des propriétaires sur la valeur de leur terrain crée aussi une surcharge sur les perspectives de développement du logement social. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas anodin.
Vous avez parlé en introduction de tendance sur l'évolution, les tests en tout cas qui sont faits sur le logement. Alors il y a des tests qui sont plutôt en faveur de la convivialité, de partage en tout cas de l'espace, etc. Mmh. Et puis ce que vous avez présenté à la fin, qui vont plus vers la technicisation du logement, et qui sont, moi qui me semble complètement à l'inverse de la convivialité. Est-ce que vous pensez que c'est compatible, effectivement, ou c'est deux tendances complètement opposées sur lesquelles... comment est-ce que vous conciliez ces deux tendances?
Je peux vous donner surtout l'expérience qu'on tire des logements qu'on a, par exemple, isolés, puisqu'on essaie de gérer le problème de la facture énergétique. Donc tous nos logements qui sont dans les catégories basses, on privilégie leur réhabilitation. Et on se rend compte que sur certains, on a des effets qui ne sont pas du tout ceux qu'on avait escomptés, parce que culturellement, on va ouvrir la fenêtre non pas 5 minutes ou 10 minutes par jour, mais 1 heure ou 2 heures. Donc la technique, à ce moment-là, ne sert strictement à rien. Et donc là, c'est tout le travail de communication, là je parle pour nous bailleurs avec nos locataires ou avec les propriétaires, qui est en jeu. On se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre d'avancées technologiques sur lesquelles nous, on est totalement revenus. On entend beaucoup parler de ventilation mécanique contrôlée, VMC, simple flux, double flux. On se rend compte que nous, on n'arrive pas à amortir le coût de la gestion d'une ventilation double flux dans les charges de nos locataires. Donc on est revenu à des ventilations simple flux, moins performantes, mais qui sont du coup plus simples et qui représentent un équilibre qui reste acceptable. Donc la question de la technique, je ne sais pas si on est dans la surenchère, mais pour nous, elle est plutôt liée, je pense, à la question des services que ça va pouvoir apporter dans la communication, dans l'échange, dans aller chercher le fait d'aller chercher des. Je pense notamment sur la question de l'énergie. On se rend compte que si vous avez un suivi en temps réel de la consommation énergétique de votre logement, vous êtes beaucoup plus sensible à la température qu'il peut avoir dans ce logement. Donc ça, c'est des éléments, quand vous les suivez, vous êtes peut-être plus attentif.
Moi, peut-être dire deux mots aussi sur ce sujet. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, dans le logement social ou dans le logement d'accession privée, pour faire simple, sur le plan des obligations réglementaires, ce sont exactement les mêmes obligations réglementaires. Donc d'un côté, vous pouvez avoir des logements qui adaptent leur prix de vente à un marché, et de l'autre, si ce marché existe, on va dire, et de l'autre côté, il y a des bailleurs sociaux qui, eux, ont des loyers encadrés, ont des prix qui sont encadrés, des financements qui sont encadrés, et qui, pour autant, doivent répondre exactement aux mêmes obligations normatives que l'ensemble du parc immobilier. On sait aussi que la difficulté à conjuguer des objectifs qui, pour certains, apparaissent comme contradictoires. Peut-être certains ont vu ces dernières heures la publication du dernier rapport, du cinquième rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. quand on prend connaissance de ces enjeux-là, on a tous envie, enfin je l'espère en tout cas, de se dire pourquoi ne réagit-on pas plus vite, pourquoi ne fait-on pas plus de choses pour essayer de lutter contre cette problématique. Les politiques en matière, par exemple, de gestion et de maîtrise des énergies et des énergies fossiles, en tout cas les plus limitées possibles, ont conduit à la mise en place d'un certain nombre d'objectifs dont aussi bien les bailleurs sociaux que les autres sont, d'une certaine manière, tenus d'être garants. Et assez simplement, on citait l'exemple de ces problématiques techniques qui apparaissent secondaires par rapport à la qualité de vie prise dans son ensemble. Mais si aujourd'hui, l'objectif qui est donné, par exemple, pour l'horizon 2025, est d'avoir des constructions qui soient totalement à énergie positive. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que pour 2025, l'ensemble des logements neufs qui seront créés devront produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ça signifie aujourd'hui qu'on met en place des dispositifs typologiques, morphologiques, des problématiques de conception de logements, des équipements techniques, qui plus est, qui doivent pouvoir garantir ce niveau de performance. Et pour pouvoir garantir ce niveau de performance, au moins au niveau d'études, par exemple, on a recours à des techniques, à des logiciels de calcul qui sont extrêmement sophistiqués, et finalement qui aboutissent, c'est aussi une caricature, par exemple, si vous voulez aujourd'hui faire du logement à énergie positive, vous êtes obligé, mais je dis bien obligé, de faire de la ventilation double flux. Il n'y a pas d'alternative, techniquement, vous ne pouvez pas garantir les résultats si vous n'avez pas recours à ces techniques-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que le lobby des fabricants de matériel de ventilation peut être acteur de cette chose-là, mais l'enjeu de base, il n'est pas contestable. Enfin, je veux dire, dire qu'on va lutter contre le réchauffement climatique, on n'a pas 50 millions de solutions. Ça, c'est le premier point, c'est que l'obligation de satisfaire, y compris dans des logements à faible coût, à ces exigences-là. On ne sait pas, notamment dans le logement social, se satisfaire d'exigences techniques qui pourraient être inférieures à une norme moyenne, par exemple, sachant que l'objectif, comme le disait Olivier Brachet, ce serait déjà de loger les individus, et est-ce qu'il vaut mieux loger dans un logement qui consomme un peu d'énergie ou pas avoir de logement? Voilà, moi, la question, elle reste active, et le coût du logement est une donnée importante, on l'a vu, sur la fabrication, la possibilité de fabriquer des logements. Bon, je passe l'ensemble des frais qui peuvent être associés à ça, alors que par ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, il y a 90% des économies d'énergie qui pourraient être réalisées sur le parc existant, par exemple, avec toutes les difficultés que ça pose. Il y a eu des questions qui ont été évoquées récemment autour de ces sujets-là, qui viseraient par exemple à imposer l'isolation des constructions par l'extérieur. Quand il va falloir isoler l'hôtel de ville de Lyon, ça va pas être très simple. J'attends, je veux bien faire. Il y a aussi un problème culturel, c'est-à-dire que à la fois, on n'accepte pas, notamment dans le logement social, d'avoir un niveau de prestation qui serait inférieur à celui que son voisin peut avoir. C'est assez logique, on ne veut pas de logement défavorisé, on est dans une logique de j'y ai droit, d'une certaine manière, pourquoi pas, c'est assez louable, d'une certaine manière, de pouvoir revendiquer ces choses-là dans une société comme la nôtre. Mais c'est pas toujours très évident, quoi. Et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, on observe des mouvements qui font que, alors que dans les années 60-70, le logement social était extrêmement innovant du point de vue des typologies, dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, les 30 glorieuses encore, il n'y avait pas encore de crise de l'énergie, et ainsi de suite, et donc une liberté plus grande. Et aujourd'hui, la nécessité de faire converger tous ces paramètres d'exigences techniques, d'exigences qualitatives, d'exigences de... Je vais pas refaire la liste de tout à l'heure, qui est extrêmement longue, quoi, sur ce sujet-là. Mais il y a aussi un problème culturel. Il y a aussi un problème culturel qui est, est-ce qu'on est prêt ou non à adapter, entre guillemets, notre façon de produire du logement, notre façon de le consommer, notre façon de le gérer. On parlait de la mixité tout à l'heure. Introduire des petits logements dans une copropriété privée, par exemple, du logement social dans une copropriété privée, c'est quasi mission impossible. Quoi, aujourd'hui, gérer à l'unité, par exemple, des logements, le monsieur est parti tout à l'heure, mais gérer des logements sociaux à l'unité, ou par petite poche de 4, 5, 6 logements, on pourrait penser que c'est une bonne idée, c'est techniquement infaisable, quoi, il me semble.
Ça coûtera cher le locataire.
Ouais. J'ai cru oublier de dire tout à l'heure, mais qui est une réflexion simplement que je me fais, c'est qu'on a, il y a périmètre de questions énorme autour de l'encadrement, enfin de la question juridique. Je pense que on ne peut pas à la fois faire le constat qu'on a fait vie en morceaux ces segments de système qui, on le voit bien, cherchent à se dérober, j'allais dire, au rapport locataire habituel. On a une lecture univoque des conditions dans lesquelles se règlent les relations juridiques dans le logement. Je pense que ça est aujourd'hui un facteur de rigidité. Alors je ne sais pas quelle est la solution, parce qu'il faut effectivement, c'est un peu comme sur les salaires, hein, il s'agit pas de, ou sur l'emploi, il ne s'agit pas de déréguler, etc. Mais on voit bien que se met en place par la périphérie des modalités d'habiter qui tentent d'échapper à la règle de droit ordinaire qui, elle, est jugée trop raide, trop durable, enfin, voilà, comme si on allait rester dans le même logement toute sa vie, et qui aboutit à des défauts de souplesse, à des protections qui font que les impayés, ça se solde dans leur... Moi, je préside Grand Lieu Habitat, les impayés de loyer, c'est 5 millions d'euros. Hein. C'est pas rien. Dans le parc HLM, avec des gens qui ont des loyers résiduels sur 300-400 euros, qui payent 100 ou 150 euros de loyer. Je veux dire, ça fait pas plaisir aux mêmes qui sont dans le parc privé, qui larguent beaucoup d'argent. Donc, cette compétition aussi, ça c'est un autre point que je voulais dire. C'est pas, on assiste de plus en plus à une espèce de compétition des mêmes. Et quand on achète un immeuble rue du Guesclin pour le réhabiliter et en faire du logement social, dans l'immeuble d'à côté, on a quelquefois exactement les mêmes gens. Et dans le logement social qu'on a fait, les gens vont faire 15 à 20% de taux d'effort. Et dans l'immeuble à côté, les mêmes vont faire 40% de taux d'effort. Hein. Dans le parc privé, il y a autant de gens qui sont éligibles au logement social que dans le parc social où il n'y a que ça. Et là, eux, il y en a 1 sur 5 qui consacrent 40% de son revenu à payer des loyers. Et donc, ils disent, mais pourquoi l'autre, il a eu un logement social ? C'est la compétition des mêmes qui produit des effets dévastateurs sur la cohésion sociale. Et pourtant, on ne sait pas faire mieux pour faire de la mixité sociale, au fond, que de mettre un peu de logement social un peu partout. Quoi. On ne sait pas faire autre chose que ça, parce que dans le parc privé, on a très peu de moyens pour agir. Très peu de moyens efficaces, numériquement conséquents. Donc, ce sont des questions pour demain, pour moi, importantes. La compétition entre les mêmes ou entre les presque pareils, c'est un facteur qui aura de la résonance politique si on oublie d'y réfléchir.
Est-ce qu'on fera encore une question ? Parce que, oui, une dernière alors. Bonsoir, je voulais savoir si dans ces conditions il est encore possible de faire du logement très social. Que vous disiez que enfin, finalement même les loyers les plus bas sont encore élevés pour certains.
Non mais on a effectivement des prix au mètre carré qui aujourd'hui arrivent difficilement dans le neuf, entre autres, à être en dessous de 5 euros du mètre carré. Mais on y arrive encore. Les 50 euros du mètre carré, pour vous faire vite, ça fait 500 euros les 100 mètres carrés. Mais sur lesquels il faut quand même faire les dégrèvements d'APL, d'allocation logement. Donc on a quand même quantité de loyers qui, une fois rabattus par les aides, se situent autour de 200 euros, 250 euros. C'est peut-être trop pour les minimums vieillesse ou les RSA, etc. Mais aujourd'hui, prétendre qu'on pourrait, sur des loyers, avoir moins de 200 ou 250 euros, c'est hors économie. Il n'y a pas d'économie qui nous permettra de le faire. Par contre, on peut faire des loyers gratuits, et puis quand on n'a plus d'argent, c'est plus gratuit. Voilà, c'est tout. Donc, le trait social, je pense que, par exemple... dans les nouveaux foyers, il y aura inauguré un l'autre jour là-bas, au bout de Mizola, là, bon, qui sont des foyers T1 bis, hein, on va dire, donc pour des personnes seules en général, ou peut-être un couple, c'est New Look Sonacotra ou Aralis. y a des loyers résiduels à 50 euros dans du neuf. Je crois qu'on peut, le débat, là, c'est pas du très social. On fera pas mieux, et à mon avis, je sais pas si le terme qui convient, c'est très social ou pas, mais à 50 euros, je vois dans les marchés publics d'achat d'hôtels, hein, 3000 places d'hôtels actuellement à Lyon, c'est 18 euros la nuit. 50 euros pour 30 jours, c'est calculer combien ça fait à la nuit. Ça fait moins de 2 euros la nuit. C'est très social ou pas?
Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le très social aujourd'hui, c'est plutôt dans la question de l'urgence qui se pose d'une certaine manière? Où il n'y a pas peut-être de choses qui restent.
Pas dans l'urgence, le loyer est payé au bout du compte.
Oui, je pense que c'est peut-être important de rappeler que sur ces histoires résiduelles, bon, effectivement, il y a des écarts aujourd'hui parce que les logements n'ont pas le même coût, n'ont pas les mêmes modes de financement, c'est du privé, c'est du social, mais rapporté aux ressources, ça ne veut quand même pas non plus dire la même chose d'avoir 150 euros de résiduel quand on a 400 ou 19 euros de RSA, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la gratte. Au-delà de ça, peut-être c'est important de revenir quand même sur aussi les éléments d'explicitation de pourquoi est-ce qu'on a des difficultés aussi, et de peut-être rappeler cette annonce qui a été faite dans le cadre du plan de relance récemment, parce que effectivement on a une politique nationale qui est non seulement assez faiblarde, mais qui est aussi un peu erratique. Donc on a une loi du flou qui ouvre des portes, qui propose des stratégies qui ne sont pas forcément toujours partagées, mais qui en tout cas ouvrent des portes sur certains aspects, n'avancent pas sur d'autres. Derrière, on a un plan de relance qui revient remettre en cause une partie des éléments de la loi, donc attendant des loyers, sous prétexte que c'est trop technique et que du coup ça va bloquer la construction, et donc effectivement c'est ce que tu disais tout à l'heure Olivier, à un moment donné ce qui est important sur le logement c'est produire des emplois et pas de produire du logement, et peut-être c'est important de rappeler aussi les éléments qui nous amènent aujourd'hui à être un petit peu pessimistes, vous allez tous faire une très belle nuit là-dessus, c'est aussi peut-être de dire que récemment effectivement dans le cadre de ce plan de relance il y a eu des postures gouvernementales qui sont quand même assez inquiétantes sur les questions de solidarité, en plus des questions de portage politique de la question du logement, et qui est de dire quand même, sur le logement très social, on fera pas plus, parce qu'il n'y aura pas plus d'argent, il y aura 0 euro sur le plus, donc il y a toute une catégorie de logements sociaux qui aujourd'hui ne sont plus financés par l'État, c'est important de le dire, et de dire aussi que sur le logement très social, sur lequel il y avait eu des engagements politiques forts, ce qui a été proposé, conçu, élaboré, c'est de dire qu'avec les fonds propres des bailleurs, ce sera leur problème, ce sera à eux de financer ces logements très sociaux, donc d'un côté on a 150 000 logements qu'il faudrait faire, et eux vont pouvoir s'engager sur 15 000, bon d'accord, donc il y a des gaps un peu partout, en tout cas, ce qui est quand même un petit peu inquiétant dans cette affaire, c'est qu'effectivement il y a des besoins, et c'est pas pour... Les besoins en logement peu cher, c'est une réalité, c'est pas juste une question de formule ou d'idéologie. Au-delà de cet aspect-là, on a vraiment un problème de portage politique et de conception même du modèle de logement social. Quand dans un plan de relance, on dit « l'État, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, les bailleurs, vous allez vous démerder avec votre pognon et que nous, par contre, on fera rien pour vous en empêcher ». C'est pas un modèle fort, en tout cas c'est pas un signe très fort de portage de la question du logement. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus.
Je sais pas si je peux évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé. Vous avez parlé du coût du foncier qui plombe les projets, pas seulement pour le logement social, pour tout. Et j'entendais à la radio, là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait que le coût du mètre carré à l'achat est bien moins élevé en Allemagne, et l'analyse c'était qu'en France on est très attaché à la propriété, donc on cherche à spéculer, enfin à faire valoir la pierre, enfin, a toujours de la valeur, tout ça. Je me demandais si c'était pas ça qui bloquait la construction de logements en France, et qui empêchait cette fluidité, c'est-à-dire, bon, un exemple, par exemple, quelqu'un qui... Je parle même des gens qui achètent mais qui n'ont pas sont pas des gros propriétaires, hein, des petits propriétaires. Je parle pas forcément du logement social, hein. En général, parce que moi je trouve que ça serait bien de pouvoir loger tous les gens, pas trop cher. Enfin, bon. Et, par exemple, il y a des gens qui achètent donc très très cher au mètre carré leur logement, qui est peut-être situé dans un immeuble des années 70. Et ceci dit, ils vont passer plusieurs années de leur vie à rembourser ce prêt, et ils vont pas l'investir dans les économies d'énergie. Par exemple. Donc cet argent me semble inutile, enfin, ça me paraissait quand même une bonne idée. Donc est-ce qu'on n'en sortira pas en France, parce qu'on est tous attachés à la pierre, à la valorisation de notre patrimoine? Est-ce que c'est un blocage culturel finalement? Enfin, je voulais savoir votre avis. Je vous dis, en dehors même du logement social qui est très nécessaire, mais pour tout le monde finalement.
Hein. Si, puis c'est un débat qui est lié aux retraites aussi. Très fortement lié aux retraites. Les gens font des calculs sur leurs vieux jours qui intègrent complètement la question du logement. Ils peuvent accepter des retraites un peu moindres s'ils ont fini de payer leur logement. Les banques connaissent parfaitement cette question-là pour sécuriser les gens qui finissent de rembourser à 60 ans ou à 65 ans quand c'était 65. Donc c'est vrai qu'il y a des côtés culturels en France qui sont importants. Mais ça ne veut pas dire que la comparaison avec l'Allemagne est se baserait que là-dessus. Ce qui fait la grosse différence avec l'Allemagne, c'est l'arrivée de l'Allemagne de l'Est qui a détendu le marché immobilier globalement et une démographie qui est franchement effondrée, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un ménage qui disparaît, ça fait presque deux ménages de moins, c'est pas comme nous. Voilà, donc ils ont une démographie qui est beaucoup moins exigeante et donc des zones tendues. Après, ils ont des cultures différentes de l'immobilier, etc., qui jouent. Nous, on a ne jamais oublié que la crise du logement en France, il y a deux crises. Il y a la crise de la région parisienne qui n'a rien à voir avec celle des autres. Et il y a à Paris, vous n'avez rien entre 14 euros du mètre carré et 24 euros du mètre carré. C'est un trou. 14 euros, c'est le haut du logement social, et on ne peut pas en produire beaucoup plus, beaucoup à Paris, puisqu'il n'y a pas d'espace. Et 24 euros du mètre carré, il y a un trou. À Lyon, il y a une crise qui est liée à l'insuffisance du nombre de logements, mais vous avez quand même un produit tous les 2 euros du mètre carré, à 4 euros, à 6 euros, à 8 euros, à 9 euros, à 12 euros. Vous avez un produit locatif tous les 2 euros du mètre carré. Vous avez à l'achat des produits à 2000 euros du mètre carré dans le Neuf, à Givors, à Décines, dans l'agglomération lyonnaise, à Saint-Priest, et vous avez du 6000 euros à la Croix-Rousse ou 7000. Vous avez un produit pratiquement tous les 200 euros du mètre carré. Et ce qui, pour nous, est important, c'est qu'il n'y ait pas ce trou qui se crée, qui jette dans une impasse totale, j'allais dire la classe moyenne qui ne trouve plus, si elle n'est pas dans le logement social ne peut plus se loger dans le cœur d'agglomération, voilà. Et donc ça, c'est un enjeu très important qui n'est pas gagné, et quelque part c'est vrai qu'il est très assujetti à la quantité produite. C'est pour ça que cet élément là reste quand même l'élément complètement déterminant. Si on veut sortir, desserrer un peu les dents de cette crise.
Je vais s'arrêter et remercier.